Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria, du 20 février 1991. Diffusé le 4 octobre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez noté donc une nouvelle version, une version New Look, New Age, New Wave, Baba Cool des Partisans Blancs. Alors la question qui se pose, bien sûr, que je vous pose et que Paul Robert, le directeur de la SERP, société que nous aimons tous, la société d'édition républicaine et prostaglandinesque, c'est que c'est ça, non ?
Un peu de
choses. Bon, non, c'est quoi, société d'édition raciste ? Non,
je ne le sais même plus moi.
Réactionnaire et populaire. Enfin, en tout cas, ça fait des disques, donc, et des cassettes. Et un.
Reproduction phonographique.
Ah, reproduction phonographique. Bon, tant que Paul se contente de reproduction phonographique, on peut décemment pas lui en vouloir. Je disais donc que nous nous interrogeons. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Victoria ?
Je me demandais avec intérêt dans quel micro parlait Alain Sanders.
Ah, dans aucun, il parle à la cantonade. Donc, disais-je, nous nous posons la question, cette version vous complète-t-elle plus que l'autre, ou point ?
Oui, c'est-à-dire que le Camongeois Saint-Denis, à chaque fois qu'il rentre en studio, pour enregistrer quoi que ce soit, se fait toujours un petit plaisir et enregistre toujours, à chaque fois, une nouvelle version des Partisans Blancs. Il n'y en a aucune qui nous satisfasse réellement, mais enfin, ça change un peu de temps.
Non, celle-là, elle présente un avantage sur l'autre, c'est qu'elle est juste.
Elle est juste, on comprend les paroles.
Ça, c'est moins important, mais
elle est bien rythmée.
C'est pour ça que j'aimais mieux l'autre, moi. Elle faisait plus vrai.
C'est cela, oui. Alors donc, elle est juste, mais il faut reconnaître qu'elle est moins rythmée. Et que si on veut aller à la guerre, il va falloir trottiner avec cette chanson-là.
Hein, parce que
c'est plutôt, c'est pas, oui, le c'est rythme, pas le pas légion, c'est plutôt le pas chasseur. Hein.
Oui, mais le rythme en est
le rythme. Bon, c'est bien, c'est déjà quelque chose. En tout cas, toutes nos félicitations au cœur Montjoie à Saint-Denis.
Oui, alors si les auditeurs veulent progresse. Dire oui, on n'aime pas,
donc, sont si vous voulez, juste pour rigoler comme ça, vous appelez le 46 51 00 85 parce que les téléphonistes bénévoles. Et néanmoins amical, aime beaucoup qu'on lance ce genre d'appel.
Oui. Non ?
Donc vous appelez, et surtout qu'elles sont deux ce soir.
Aujourd'hui, il y en a une de moins, oui.
Alors j'espère qu'on fera pas comme Jean Ferré, qu'on n'aura pas 640 appels dans l'émission, parce que 640 appels, ça fait quand même 70 appels à l'heure, c'est-à-dire vous avez même pas une minute, à 5 répondeuses. Ça fait beaucoup, même pas une minute par appel.
On dit des répondeuses ?
Je sais pas, on dit bien des poupondeuses.
Pourquoi on dit pas des répondeuses ? Je sais pas le dire.
Voilà, donc la question est posée, voulez-vous, question intéressante, vous imaginez quand même, voulez-vous ce nouveau générique ou l'ancien ou voulez-vous rien, d'ailleurs voulez-vous que cette émission s'arrête, après tout on ne sait pas, c'est possible.
Tentez pas le diable. Ah,
non, non mais je dois dire que j'ai écouté hier Maliarakis, c'est difficile de faire mieux, hein. C'était bonne son émission. Vous l'avez écouté ?
Elle l'a pas écouté. Ça va, pourquoi quand on parle du diable, tu parles de Maliarakis, c'est quand même terrible.
Non, non.
Non, mais je l'avais annoncé la semaine dernière, je pensais.
Mais vous ne l'écoutâtes point.
Mais non.
Il fait une émission avec Carrère. Vous l'avez entendu, Jacques Darès ? Formidable. Alors bon,
les deux tiers, plutôt.
Elle était excellente. Puis la deuxième partie, la lecture je vais y arriver, la guerre du Péloponnèse, de mon pote Thucydide, c'était quand même pas piqué des hannetons. Avec les entretiens entre les Athéniens, qui ne s'atteignirent jamais d'ailleurs, et les Miléens. Les Miléens, c'est les habitants de Milos, c'est pas les Miléens.
Oui.
Non, c'était bien. Milos, Mélos.
Mélos, ou Milo. Méléens, c'est des Méléens.
Les Méléens, oui. J'ai dit quoi ? Miléens ?
Miléens.
Je trouvais ça plus joli.
Deux Miléens, les différents.
Eh bien, je suis très content, figurez-vous, pour commencer cette émission, parce que j'ai eu la joie d'apprendre, ce matin, en me levant, enfin, peu de temps après m'être levé, que la liberté et la vérité avaient fait un pas en France, et quand la liberté et la vérité font un pas dans le même sens, il faut quand même pas oublier de le noter, généralement, d'ailleurs, ça se termine par un plat-ventre général, parce qu'ils se mélangent les pinceaux, liberté, elle, se mélange les pinceaux, mais là, il n'y a pas de danger, parce que c'est vraiment, ça s'est passé... Ce qui est normal, d'ailleurs, à 150 mètres de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où la liberté a fait un pas et main dans la main avec la vérité. Pas qui s'est concrétisé, si j'ose cette métaphore aventureuse, par le vol, non pas d'un bourdon, mais d'un pavé, qui a transpercé la vitrine d'une bibliothèque, d'une librairie qui s'appelle La Vieille Taupe. Et vous savez que quand on jette des pavés dans les vitrines des bibliothèques, ça fait toujours avancer la liberté et la vérité. Il faut dire que cette librairie présente la particularité d'être une librairie dans laquelle on vend des livres, voyez. Donc ce qui est déjà quand même dangereux. Alors, un livre, par définition, c'est dangereux, en dehors du Capital et des 110 propositions de Mitterrand. Je veux dire que quand on le voit maintenant, même s'il m'en faisait une 111e, j'ai pas très envie de l'accepter. Mais donc dans cette librairie où on vend des livres, on a jeté un pavé. Il y avait eu dans la soirée une manifestation des normaliens. Des normaliens. Tu vois pourquoi normaliens? Oui, des anormaliens, c'est ça. Ça fait penser à quelque chose. On peut. Bon. Et donc, ils ont manifesté, et puis ensuite ils sont partis. Et puis dans la nuit, il y a un pavé qui probablement.
C'était un pavé retardement.
Qui a bousillé la vitrine de Pierre Guillaume. Alors inutile de vous dire que, bien évidemment, si vous avez des livres à acheter, quel qu'en soit le sujet, si ça tourne autour de l'histoire, il faut aller les acheter à la Vieille Taupe, parce que à partir du moment où on jette des pavés dans les vitrines, nous, il faut se précipiter dans les boutiques pour acheter les livres qui sont derrière ces vitrines. C'est évident. C'est une question de, je dirais, d'autodéfense, de légitime défense et de protection de nos libertés. Il y a une autre façon. Alors, je salue Pierre Guillaume, je salue les éditions de la Vieille Taupe et la librairie de la Vieille Taupe, et je lui témoigne mon amitié et mon soutien, parce que il va falloir quand même que les autres comprennent qu'ils ne peuvent pas impunément jeter des pavés dans les vitrines comme ça. D'ailleurs, je signale par la même occasion que, en tout cas, il y a un mec qui n'est pas suspect pour plusieurs raisons d'avoir jeté ce pavé, c'est Monsieur Guillonnet, parce que Monsieur Guillonnet, il est en prison, voyez. Alors Monsieur Guillonnet, il commet un crime abominable, il croit, ce qui est impardonnable, il faut bien le dire, il pense, lui, que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et il faut dire que c'est absolument inexpiable. Et pour ça, on a fait une chose, on l'a mis en prison. C'est-à-dire que c'est, à l'heure actuelle en France, le seul individu qui est en prison pour avoir une idée. Vous voyez ? Alors en France, vous avez parfaitement le droit, par exemple, de penser et d'écrire qu'on peut... je sais qu'à cette heure-là, il y a des jeunes gens et des enfants qui écoutent l'émission, mais je vais essayer d'exprimer ça d'une façon un peu discrète. On a parfaitement le droit d'écrire absolument n'importe quoi sur les mœurs de certains personnages pour défendre les mœurs de ces personnages qui n'observent pas des critères normaux d'âge en matière de relations amoureuses.
Critères normaliens.
Même des critères normaliens. Ça, vous avez le droit. Il y a des publications plein les boutiques. Il y a des librairies qui existent. Ils ne vendent que ça. Que ça, avec des photographies, avec tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est absolument autorisé. Ça a même été dépénalisé sous la pression, si j'ose dire, de Monsieur Lang. Je me demande d'ailleurs pourquoi il s'est occupé de ça.
Parce qu'il s'appelle Lang. Ah. Mais on peut aussi, par exemple, être Premier ministre et aller sur le front des
alors,
troupes.
Alors, on va en parler.
Et dire aux généraux, oui. moi j'ai été pour le FLN pendant la guerre.
Moi, je suis un traître. Moi, Premier ministre, je suis un traître. J'ai collaboré avec l'ennemi. Je suis un traître et un collaborateur. Et je suis content de venir saluer l'armée française. Voir et complimenter l'armée française. Mais enfin, bon, ça, c'est pas une découverte. Je veux dire, de savoir qu'il y avait un traître à Matignon, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a appris. Et alors, je disais, on a donc le droit de faire ça. Mais de penser et d'écrire de travers, on n'a pas le droit. Strengfairbotten, donc Monsieur Guillonnet est en prison pour lui apprendre à penser droit. Voilà. Il y a des gens qui téléphonent déjà, je préférais l'ancienne version. Ah ben voilà, la nouvelle version est trop efféminée. Ça c'est pour toi.
Ça va leur faire plaisir. Je vais transmettre.
Je lis.
C'est le côté guitare, c'est un peu...
Je lis. Alors, troisième réflexion, Burke nous dit, c'est court. Voilà. Alors, à ce rythme-là, on peut recevoir 650 coups de téléphone.
Oui.
Hein?
Ça, c'est court.
Pourquoi pas Nabucco, nous demande un auditeur. Mais parce que les partisans blancs. Je préfère l'ancien, je n'aime pas la guitare, on en a ras-le-bol dans le métro. Quand tu penses que c'est un premier prix du conservatoire qui joue quand même.
Oui.
C'est pas un joueur du métro. Monsieur de Bekelch devrait s'arrêter, il est la honte de Radio Courtoisie.
Oh, bah, bon, bah, au revoir.
devrait s'arrêter de quoi? De chanter? C'est pas moi qui chante.
C'est pas lui non plus qui joue de la guitare.
Je signale d'ailleurs à cet auditeur triste, qu'est-ce que c'est? C'est un auditeur que, il a sur son poste, vous voyez monsieur, vous regardez votre poste, normalement à gauche, mais enfin des fois c'est à droite, il y a un bouton, alors on tourne, et si on tourne vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de la main que vous écrivez à la main que vous écrivez pas, le poste s'arrête. Alors vous regardez la pendule, à 21h vous remettez votre poste parce que c'est fini, j'ai fini mon émission. Je parle 3 heures par semaine et je suis navré de devoir vous dire que il n'est pas dans mes intentions immédiates d'arrêter. Voyez. Donc je pense qu'il vaut mieux que vous, vous arrêtiez d'écouter la radio plutôt que moi j'arrête de parler dedans.
Déjà nous on a beaucoup de mal à l'arrêter alors.
Alors quelqu'un qui me dit que je suis la honte de la jungle, je peux décemment pas... Bravo pour le nouvel indicatif, dit Madame Robert. Alors, donc je disais, voilà, deuxième chose, si vous ne savez pas quoi faire, vendredi après-midi, oui, vendredi, c'est ça, à 13h30, vous pouvez aller à la 17e chambre correctionnelle, où va se dérouler un des innombrables procès intentés par les défenseurs, les démocrates chrétiens défenseurs des libertés et de la vérité, à François Brignot, qui persiste à vouloir écrire des choses qui ne sont pas dans le droit fil de la littérature autorisée. Et donc François Brignot comparaîtra devant la 17e chambre correctionnelle avec, il a invité un témoin à décharge, alors là on voit exactement toute la finauderie de François Brignot qui sait s'y prendre pour ménager la justice française et pour lui témoigner sa chaude sympathie aux puissances du jour. Il a demandé au professeur Forisson de venir témoigner. Donc, vous voyez tout de suite que les choses, quand même, peuvent être intéressantes.
Qu'est-ce qu'on appelle ça comment? Un témoin à charge ou à décharge?
Je pense que c'est un témoin à décharge, en l'occurrence. Je pense que c'est pour ça qu'il a été invité. Alors, vendredi 22 à 13h30 à la 17e chambre correctionnelle. Moi, malheureusement, vendredi, je travaille. Mais, autrement, j'y serais allé parce que c'est quand même le genre de circonstances qu'il faut pas manquer.
Ah, puis il y a une belle ambiance.
Il y a de l'ambiance, voilà. Alors voilà, vendredi 22, 13h30, à la 17e chambre correctionnelle. D'ailleurs, je vais vous donner plusieurs rendez-vous à la 17e correctionnelle, devant la justice, parce que, par exemple, notre excellent camarade Le Gallou a rédigé une invitation, c'est absolument superbe. Alors voilà, poursuivi pour avoir défendu les Français et la préférence nationale, Jean-Yves Le Gallou, président du groupe du Front National au Conseil Régional d'Île-de-France, conseiller municipal de Colombes, vous invite à le soutenir à son procès devant la 15e chambre, je m'étais trompé, la 15e chambre correctionnelle, le jeudi 7 mars 91 à 13h30 au palais de justice de Nanterre, 6077 rue Joliot-Curie, RER A, c'est station préfecture. Vous voyez, donc si vous voulez y aller, c'est facile. Il y a également des autobus qui partent de la Défense. Le procureur, monsieur Pierre Lioncan, tiens, je connaissais Bordeaux, Paris-Strasbourg, mais pas Lioncan.
Ben Lioncan, c'est l'ancien copain de Badinter.
Ah oui, non mais je ne connaissais pas ce trajet-là. C'est ça que je veux dire. Ancien secrétaire général du syndicat de la magistrature, ancien membre du
comité
de France, c'est ça. Plaignant maître Jouffa, président de la Ligue des droits de l'homme, représenté par maître Régis Vaquet et Samia Saïdi, pas grand chose d'ailleurs, juge d'instruction madame Poteau-Pfister, c'est bien. Jean-Yves Le Gallou a donc été poursuivi pour un article paru dans Présent consacré à l'émeute de Gennevilliers. Condamné en première instance, il a gagné ce procès en appel. Le procès du 7 mars concerne 3 documents électoraux de la campagne municipale partielle de Colombes. Témoin cité par la Défense, M. Alain Aubert, conseiller municipal de Colombes, conseiller général vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, M. Maurice Boudot, professeur de philosophie à la Sorbonne, président d'enseignement et liberté, M. Philippe Boursier de Carbon, polytechnicien, démographe, M. Henri de Lesquin, ancien élève de Polytechnique et de l'ENA, président de SOS Identité et du Club de l'Horloge, M. Pierre Miloz, ENA, écrivain, prix René Cassin, auteur du rapport sur le coût de l'immigration, Monsieur Jean Motin, conseiller d'État honoraire, auteur de « Les immigrés et l'emploi », Monsieur Hubert Prévost, secrétaire général à l'intégration, le général Duverdier, cadre de réserve, Monsieur Laurent Wetzel, ancien élève de l'École normale supérieure, maire et conseiller général de Sartrouville. L'accès au débat judiciaire est libre et gratuit. Le public doit simplement veiller à respecter la sérénité des débats. Alors, en somme, c'est très intéressant parce que ce débat qui se déroulera, je vous le rappelle, le 7 mars 91 à 13h30 devant la 15e chambre du palais de justice de Nanterre se trouve du même coup transformé en colloque sur le thème l'immigration est-elle une chance pour la France ou la France est-elle une chance pour l'immigration, parce que je veux dire toute proposition peut être inversée. Est-il permis d'illustrer avec une photo représentant des musulmans en prière, place de la République, une position hostile au droit de vote des immigrés? Deuxième question, est-il permis de qualifier d'invasion pacifique l'arrivée massive d'immigrés dans un quartier? Troisième question, est-il permis de défendre la préférence nationale dans l'attribution des logements et des aides sociales? Quatrièmement, est-il permis de dire à ses électeurs ce que l'on croit, même si cela est contraire aux vérités officielles? Ça, c'est une grande question, à laquelle on a répondu cette nuit au moyen d'un pavé dans une vitrine. 1, 2, 3, 4, 5. Est-il normal dans une démocratie de faire arbitrer les désaccords politiques par la justice? Ça, c'est encore une très intéressante question. Et toutes ces questions seront posées lors du procès du 7 mars. La réponse sera donnée par le président du tribunal, ses assesseurs.
Mais c'est une bonne idée d'avoir fait une invitation de ce type. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on fait
un truc. Je trouve que c'est une excellente idée.
Il manque plus que le buffet campagnard gratuit à la fin.
Mais je pense pas que.
Un cocktail.
Je pense pas que la chancellerie soit disposée à prendre ces frais, ce genre de frais en charge. Bon, on se pose la question.
Puis tu peux pas transformer un tribunal en opéra bouffe, quand même.
C'est amusant, ça. C'est bien. C'est pour ça que je suis content qu'elle en revienne. Merci, monsieur Sanders. Ah oui, j'ai pas présenté mes invités, c'est vrai. Alors, Alain Sanders, qui est même pas invité, qui est permanent. Paul Robert, qui est un quasi-permanent, vous le savez. Nicolas Bonnal, qui est aussi un permanent. Bon, finalement, on fait notre petit phalanstère, on ne demande rien à personne. Même pas besoin d'auditeurs, au bout du compte, hein, finalement.
Si cassez-vous.
Non, n'exagérons pas quand même, vous pouvez rester. Si vous voulez téléphoner, d'ailleurs, 46 51 00 85. Et puis, deux invités pour commencer. Pierre Pélissier, qui est journaliste et écrivain et qui vient de consacrer un livre à la classe politique qu'il a intitulé d'une façon sibylline « Tous nuls ».
Vous trouvez ça tout à fait sibyllin ?
Ah, moi, je trouve ça complètement sibyllin. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Et puis, Jacques Darès, qui est directeur d'Atlantis. L'autre jour, j'avais dit directeur fondateur, il était un peu choqué parce que Atlantis a bientôt 100 ans d'existence, ou peu s'en faut.
Non, 65.
C'est 65. Là. Donc, c'est pas vous le fondateur.
J'aurais eu un an.
Voilà.
C'est un peu jeune.
Je sais pas, vous êtes précoce, mais quand même. Donc, Jacques Darès, directeur d'Atlantis. Atlantis, c'est une revue qui s'occupe de symbolique et de toutes ces sortes de choses.
Disons d'études comparées des civilisations anciennes pour essayer de mieux comprendre l'évolution de celles-ci et donc de savoir pourquoi et comment nous en sommes dans la situation qui est la nôtre.
Alors on va faire un TP, c'est comme ça qu'on dit ce soir, à propos de l'objectif ou de la raison sociale d'Atlantis, puisqu'on va étudier la situation actuelle dans le Golfe, la guerre du Golfe, sous ses aspects symboliques. Est-ce que, et c'est la question au fond que pose le dernier numéro d'Atlantis qui vient de paraître, c'est où en sommes-nous de la fin des temps? Question qui ne laisse pas d'être intéressante, parce que quand même, si on nous répond, on y est. On peut tout arrêter, y compris l'émission. Il est temps de rentrer chez soi, de faire sa confession générale, et puis de se mettre dans un coin en attendant que ça vienne. Mais si ça ne venait pas ce soir, et si ça ne venait pas avant vendredi, je vous rappelle que vendredi à 20h, Jean-Marie Le Pen, Roger Olyndre et Jean Baïf vous invitent à un meeting sur le thème du soutien à l'armée française, qui se passera donc à la mutualité, 20h, le 22 février 91. Je pense qu'on redonnera cette information. J'ai à vous dire dans la série des annonces que le FNJ a emporté un élu par l'intermédiaire du CNEP, du Cercle National des Étudiants Parisiens, qui est Nathalie Couture, qui avec 16% des voix représente les étudiants nationaux et nationalistes à la faculté d'Assas Panthéon, Paris 2. Ce succès atteste la nouvelle implantation du CNEP dans les universités parisiennes et confirme les résultats de Paris 4 Sorbonne Clignancourt, où le CNEP, avec des scores allant de 8 à 11, a obtenu un élu, sur Richard Haddad. Et dès maintenant, le CNEP entend concentrer l'ensemble de ses efforts sur les élections au CROUS. C'est intéressant, toutes ces... Le CNEP, le CROUS, c'est joli. Qui se dérouleront à Paris le 19 mars. Il demande aux étudiants parisiens de se mobiliser, de voter et de faire voter lors de ce scrutin pour la liste portant le titre de Cercle National des Étudiants Parisiens. Voilà, je voulais vous dire ça, ça me paraît important. L'UNEC, l'Union des Nations de l'Europe Chrétienne, organise à Pâques 91 son deuxième pèlerinage européen en Pologne, chez Stoschkova et Auschwitz. Thème pour la vie, autrement dit contre l'avortement en génocide. Cette année, nous nous arrêterons également à la frontière polonaise-lituanienne pour prier publiquement. puisque le prix Nobel de la paix, Gorbi, refuse le visa aux chrétiens qui voudraient réconforter leurs frères lituaniens persécutés. J'inviterai prochainement d'ailleurs pardon, un représentant de l'UNEC pour parler de ce pèlerinage. Les cercles légitimistes d'Île-de-France organisent le 2 mars 91 une grande journée royaliste et catholique à Paris, Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques. Je répète, le 2 mars 91. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Là, c'est une manifestation à Nice. Alors, je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller à Nice, mais le 12 mars, devant le palais de justice à 9h, manifestation pour la défense des docteurs Lagarde et Roquette et pour la liberté de la médecine. Alors, les docteurs Lagarde et Roquette, j'aime bien parce que c'est très amusant. C'est des médecins qui sont poursuivis pour exercice illégal de la médecine. C'est-à-dire qu'en fait, eux disent, on n'est pas obligé de soigner tous les gens. Vous voyez, la médecine, c'est pas comme le code de la route. Oui, on n'est pas obligé de rouler à droite, quoi. Si on trouve que c'est mieux de rouler à gauche, on peut. Non. Et alors, l'État, le pouvoir, dit non. Si vous êtes médecin, vous êtes obligé. Par exemple, quelqu'un qui a mal à la tête, vous êtes obligé de lui donner de l'aspirine. Si vous faites autre chose, vous faites exercice illégal de la médecine. Ce qui est mal. Voilà. Oui, vous voulez que je vous annonce quelque chose? Mais avec grand plaisir, cher ami.
Alors, samedi prochain.
Samedi 23 février 91, à 15h, à la Sorbonne Amphi Bachelard, 17 rue de la Sorbonne, 75 005 Paris, conférence de Gérard Mourgue, ex-secrétaire général de l'Université radiophonique et télévision internationale, François d'Assise, poète de la sainteté. C'est beau, ça,
oui.
François d'Assise.
Je crois que c'est justement un sujet qui en vaut la peine.
Les chœurs de Saint-Eustache, le quintet de cuivre artiste et Jean-Paul Imbert, co-titulaire des orgues de Saint-Eustache, organisent un concert sous la direction de Roger Calmel et Michel Ploquin le jeudi 7 mars 91 à 20h30 à l'église Saint-Eustache, rue du Jour. C'est joli, rue du Jour. Pour une église, quelle belle adresse. Œuvre de Dupré, Monteverdi, Mouton, Loti. Alors à ce moment-là, le père Varlet va commencer à faire la bobine. Poulenque, Guillou, Messien et Calmel. Voilà, prix des places 150, 120 et 60 francs pour une visibilité partielle ou nulle. Si vous voulez pas voir mais juste écouter, ça coûte que 60 francs. Si vous voulez voir en plus vous écoutez, c'est 150. Voilà, la réservation c'est au Cosser Boringer, 42 62 40 65. Le Magnificat de Roger Calmel sera exécuté sous la direction du compositeur par les chanteurs de Saint-Eustache, le quintet de cuivre artiste et les solistes Sylvie Calmel, Odile Robidou et Jean-Paul Imbert à l'orgue. Voilà. On va y aller. La belle musique, comme ça ne se rate pas. Bruno Maigret, réunion publique mercredi 6 mars à 20h30 à Neuilly. Il fait toujours ses réunions le mercredi, celui-là. Je pense que c'est uniquement pour me piquer les auditeurs, enfin, ceux qui restent. Théâtre de Neuilly, 167 avenue Charles de Gaulle, métro Pont de Neuilly. Bruno Maigret, avec Jean-Yves Le Gallou, Marie-Caroline Le Pen, et Jacques D'Argence. Je préfère Marie-Caroline dans le tas, quand même. Hein. L'Union des intellectuels indépendants. Ça, j'en parle, mais j'en suis pas. Hein. Je suis indépendant, mais je suis pas intellectuel. Le mardi 12 mars 91 à 20h précise, à la Maison des Polytechniciens, bah oui, non, 12 rue de Poitiers, Paris 7e, invité d'honneur Michel Jobert. Intéressant, Michel Jobert. Intéressant. La semaine prochaine, il y aura une interview de lui dans Minute. Ça décoiffe, hein, je vous le dis. Exposé sur la Minute La France. Vous m'avez compris. Exposé sur la guerre du Golfe, qui aura pour titre De la surprise à l'obstination. Pour participer au dîner, prière de détacher la formule ci-dessous. Alors, vous faites, vous détachez la formule ci-dessous, bien sûr. Et de la retourner dès maintenant, en raison de l'affluence prévue, il n'y aura que 150 personnes. Donc, si vous voulez, vous adressez à l'Union des intellectuels indépendants, boîte postale 91 75 722, Paris CEDEX 15. Le prix du triangle, comme on dit chez les frangins, c'est 225 francs. Mais je pense pas que, à l'Union des intellectuels indépendants, on parle de prix du triangle.
C'est pas le genre de... Je ne pense pas non plus.
Je vous annonce la parution de Reconquête, l'excellent journal, l'excellente revue de nos amis du Centre Charlier, qui est faite par notre excellent camarade Hugues Kirali. Bon, c'est tout, c'est intéressant. Il y a un papier de Kirali sur la géographie politique du sida, qui est pas mal aussi. Un papier sur un enterrement du droit français, c'est à propos du livre de Jacques Trémollet de Villers, Paul Touvier est innocent.
Et il y a un papier de Jean-François Lambert, ancien président de la section française d'Amnesty, qu'on avait reçu à cette émission. Enfin, c'est très très complet, c'est très intéressant. Et puis, pour en profiter pour en parler une seconde, il y a un petit papier d'adieu à notre camarade de combat, Kalman de Motter.
Profitons-en, puisque Paul est là en même temps, pour signaler que dans la cassette numéro 17 de National Vidéo, un hommage en images a été rendu. On a des images de la cérémonie.
Alors ça, c'était
ce camarade de combat qui était quelqu'un d'exceptionnel et dont les derniers combats ont été pour Chrétienté Solidarité et l'engagement du mouvement national.
Alors c'est extraordinaire parce qu'avant de mourir, il a dit « C'est bien, je suis un soldat, j'ai combattu et maintenant au rapport ». Pas mal, non ? Voilà, je voulais vous dire que si vous avez envie de lire, ça arrive, il y a des moments où on n'a pas envie d'écouter la radio, on a envie de lire. Il y a une chose, s'il n'y avait qu'une chose à lire cette semaine, ce serait le papier de... Vous me direz que c'est comme ça toutes les semaines, ça finit par devenir rengaine. Mais c'est vraiment le papier de Brignot dans le journal d'un homme libre dans National Hebdo. Ouh là 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 là, c'est du niveau de l'enfant de la rue Disley. C'est un grand, grand, grand papier sur la guerre propre. À lire absolument. Vous sortez de chez vous tout de suite, là vous allez acheter National Hebdo, et puis voilà. Et quoi d'autre ?
Enfin, demain matin, hein ?
Pourquoi ? C'est demain, National Hebdo, c'est
ah oui, c'est demain matin, c'est vrai, il sort demain matin.
J'ai une question,
je suis habitué à voir les bons journaux sortir le mercredi. Bagnoud, par exemple, paraît le mercredi matin.
On va bientôt avancer la parution. Bon.
Ah, elle a parlé, elle a avoué, là, ça y est.
Non, mais c'est pour vous faire plaisir.
Ah bon.
J'ai une question à propos de Alain Guyonnet, où lui envoyer des chèques. Alors, justement, oui. François Brignot, dans National Hebdo aussi, fait le bulletin de Guyonnet en prison. Alors, le numéro de compte et d'écrou de Guyonnet à Bois d'Arcy est 40112 F406. 40112 F406, Bois d'Arcy.
Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation, ma petite Victoria.
Mais là encore, ils vont lui la lire dans National Hebdo.
Oui, je voudrais bien que vous disiez un peu de bien de minute quand même. Moi, je dis du bien de National Hebdo, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas réciproque. Enfin, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, ça, je ne vais pas le dire parce que je pense que ça serait mal pris. Ça risque d'être... Alors donc, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas quoi, d'ailleurs, ce que je ne vous dirai pas. Quoi ? Ah oui, puis alors Philippe me dit, effectivement, me rappelle une chose, c'est que une bien triste nouvelle, on a appris aujourd'hui la disparition de Jean Autain, qui était un illustre ami de Radio Courtoisie, qui était un personnage... De grande venue, de grande valeur, qui était un écrivain, un grand commis de l'État. Je ne veux pas m'étendre sur Jean Autain, parce que je suis certain que Jean Ferré, qui était son ami, en parlera longuement dans son émission de lundi, mais je veux simplement dire que Jean Autain était quelqu'un tout à fait remarquable, qui était un homme d'une grande rigueur et d'une grande liberté. Et puis c'était un aristocrate, et ça, c'est une denrée tellement rare qu'il ne faut pas manquer de le dire. Ce qui est très dommage, si j'ose dire, en plus dans sa disparition, c'est qu'il venait de prendre en main, depuis quelques mois, les destinées d'un groupe de presse, enfin d'une partie du groupe Ampère et du groupe d'Argo en l'occurrence, et que connaissant Jean Autain, on pouvait être certain qu'assez rapidement, il aurait rendu... à Dargo, les qualités morales qu'on est en droit d'attendre à un groupe qui a été fondé par quelqu'un comme Monsieur Dargo et qui a quand même fait de très très belles choses dans le domaine de la bande dessinée, de la littérature pour la jeunesse pendant des années, avant de tomber assez bas, il faut le dire. Si bas d'ailleurs que finalement plus personne, même les amateurs de cochonnerie, ne s'y intéressait. C'est-à-dire que c'était un peu dramatique de voir ce groupe qui avait permis l'émergence de gens comme Goscinny et Uderzo, comme Greg, comme Fred, comme Giraud, comme Charlier, etc., de voir ce groupe tomber en quenouille. Et Jean Autain en avait pris la présidence récemment, et ben, il ne pourra pas donner à ce groupe l'impulsion qu'on pouvait espérer, qu'on pouvait souhaiter lui voir donner. Et je salue en tout cas... Jean Autain, je sais pas s'il nous écoute aujourd'hui, parce que je pense que dans les premiers jours, on a autre chose à faire que de s'intéresser à ce qui se passe en bas, mais enfin, qu'il sache qu'on pense à lui. Ça, oui, mais ça, tu peux peut-être le faire, puisqu'un auditeur demande qu'on parle de la mort du colonel Bermudez.
Oui, en deux mots, c'est l'assassinat du colonel Bermudez. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les émissions de Serge, justement, sur le Nicaragua, à l'époque où les contrats se battaient avant d'être trahis, notamment par les Américains, le colonel Bermudez était le commandant 300, le fameux et insaisissable commandant 380, qui était le chef de la contra. Vous savez que depuis, le Nicaragua est supposément devenu un pays démocratique avec Violeta Chamorro, mais que toute la structure est restée sandino-communiste, et notamment le ministre de l'Intérieur, qui est Humberto Ortega, qui est le propre frère de Daniel Ortega. Et le colonel Bermudez était rentré à Managua, peut-être imprudemment d'ailleurs, mais enfin il était rentré à Managua pour créer un parti qui s'appelait le parti, qui devait s'appeler le Parti libéral nationaliste, et qui devait s'opposer à la fois au sandino communiste toujours au pouvoir et à Violeta Chamorro. Il en aura pas eu le temps parce que il n'avait pas eu colonel Bermudez dans les maquis. Pendant des années, il leur avait tenu la dragée haute. Là, les sandinistes se sont vengés. Ils l'ont tué d'une balle dans la tête alors qu'il se préparait à rentrer dans son hôtel à Managua même. Signalons que pendant ce temps, Violeta Chamorro fait une grande tournée en Europe. Elle était il y a quelques jours à Strasbourg, elle a rencontré Jacques Delors. Elle est accompagnée de son ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Enrique Dreyfus. Et elle est en ce moment en Tchécoslovaquie où elle est en train encore d'expliquer que le Nicaragua est devenu le pays des droits de l'homme, sauf pour Bermudez apparemment. Alors, dans présent de ce matin et dans présent de demain, vous verrez un hommage à ce combattant qui nous avait reçus, notamment d'abord en Floride, quand nous y étions allés avec Bernard Anthony et Thibaut de la Tocnay, et plus longuement ensuite dans le grand maquis de la Contra, qui s'appelait Yamales.
Dans le même présent, d'ailleurs, il y a un très bel éditorial de Char, éditorial dessiné de Char, qui est extrêmement éloquent. Je vous invite à le regarder. On peut pas le raconter parce qu'on peut pas raconter un dessin. Mais très curieusement, ça rejoint, c'est inattendu, mais ça rejoint assez directement l'éditorial de Philippe Alexandre ce matin sur Radio Luxembourg. Non, on dit plus ça, on dit comment maintenant?
RTL.
RTL, voilà. C'est la même idée, quoi.
Oui, hein, enfin, les conclusions n'étaient pas tout à fait les
mêmes. Non, pas vraiment, non. Mais enfin, l'idée de départ, la même, voyez. Bien, alors maintenant, on va donc entrer dans le vif du sujet, du premier sujet de ce soir, les aspects symboliques de la guerre du Golfe. Je vous rappelle que j'ai invité ce soir Jacques Darès, qui est secrétaire des gens de lettres de France,
président de...
Sociétaire.
Je n'y ai pas de fonction.
Président de l'association Atlantis, rédacteur en chef de la revue Atlantis, directeur de collection aux éditions d'Hervy, et quoi d'autre encore? Et homme charmant au-dedans.
Voilà. Oh, ça c'est...
Et puis...
Auteur de livres dont hélas les deux tiers sont épuisés.
Auteur avec une hache.
Il en reste même deux.
Auteur avec une hache.
Oui. Oui.
Ou un hache, si vous préférez.
Oui.
Si, parce que quand on écrit des livres comme les vôtres, on peut revendiquer le hache à hauteur.
D'accord.
C'est un compliment, mais...
Oui, mais je le prends comme un compliment, et là, j'accepte la réforme de l'orthographe.
Voilà, on va réformer l'orthographe nous-mêmes. Nicolas Bonnal. Alors, Nicolas Bonnal, il est spécial, il vient à l'émission, et puis il apporte une bibliothèque portable,
oui.
Et pendant qu'on parle, il écoute, et en même temps, il lit. Il a deux moitiés de cerveau,
ça lui permet d'avoir voix au chapitre de temps à autre.
Voilà. Je vois en plus qu'il est en train de potasser les livres d'un de mes collaborateurs. Alors, ça me fait grand plaisir.
Il lit du Jean Faure.
Exactement.
Il ne lit pratiquement que ça, d'ailleurs.
Qui fait une conférence sur Léon Blois, ça fera plaisir à Alain, dimanche, mais je ne sais pas où. Alors, si quelqu'un pouvait nous téléphoner pour le dire, à 15h, sur Léon Blois, pour le prophète à Trabilaire.
Donc, on a annoncé, je crois.
C'est dans le premier arrondissement, c'est à 15h.
Chez Natia, rue des Prouvaires.
Voilà, dans le premier arrondissement, métro Louvre.
Voilà, exactement.
Voilà, on y est.
Bien, alors,
mon cher Léon Blois qui attendait les Cosaques et le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit. Mais je préfère que le Saint-Esprit arrive avant les Cosaques, quand même. Je suis un petit peu prosaïque, si j'ose dire, dans mes espérances. Où en sommes-nous de la fin des temps? C'est le titre de la dernière publication d'Atlantis, numéro 364 de l'hiver 91, 64e année d'existence. Et c'est un numéro dans lequel on va trouver de Phileas Lebesgue des réflexions sur le temps présent.
Qui date d'il y a 50 ans.
C'est la reprise.
Mais qui sont tellement d'actualité que...
René Marlière, Verso 90, ou Le Diable par la queue, A-Q-U-E-U-X, on dirait du Sanders.
Ah que oui,
Vlaicu Ionescu, les soubresauts du communisme prophétisés par Nostradamus. Alors j'aime bien parler de Vlaicu Ionescu parce que dès que je parle de Vlaicu Ionescu, il y a les amis de l'autre qui chargent en disant pas du tout, c'est pas sérieux comme interprétation de Nostradamus. Et dès que je parle de Fonbrune, les amis de Ionescu disent mais comment pouvez-vous évoquer ce farceur. Et qu'on parle de Ionescu ou de Fonbrune, il y a les troisièmes qui sont les amis de je sais plus qui montent aussi au fil en disant mais ces deux gens en foutre n'ont rien compris à Nostradamus. C'est très amusant. Donc là, il y a un bon papier de Ionescu, je vous le dis, les soubresauts du communisme prophétisés par Nostradamus. Et s'il y avait un papier de Fonbrune, je le dirais, mais il n'y en a pas. Jean Faure, la trompette de l'Apocalypse, de la grande doriforie au jour de Yahvé. Alors, si vous ne connaissez pas Jean Faure, il y a une très bonne façon de l'approcher. C'est de lire dans Minute la France l'interview que a faite de Jean Faure, mon excellent camarade Nicolas Bonnal. Elle est tout à fait intéressante, c'est une bonne façon d'aborder Jean Faure.
Je crois que Jean Faure a collaboré également avec Barba Negra, je crois, pour ses chroniques.
Oui,
c'est lui qui faisait les scénarios.
Il a plus collaboré, il est l'auteur en réalité.
Il n'est pas la caméra, mais enfin disons qu'il a fait...
C'est lui qui a d'ailleurs donné l'idée à Paul Barba Negra à l'occasion des visites et conférences qu'il faisait dans le parc de Versailles.
C'est un travail admirable. Il faut voir Versailles, il faut voir le Mont-Saint-Michel, Reims, Paris, tout. Enfin, c'est
extraordinaire.
Ensuite, il y a un article d'Henri Durenbach, Les apparitions mariales de Beyrouth, sujet passionnant. Claude Jourdan, Irak et Koweït. Alors là, on est en plein dans l'actualité. Eugène Cancelier, brève réflexion sur le mystère des cycles.
Oui.
Il n'a rien à voir avec le Tour de France, bien entendu. Lucien Carny, à propos des armoiries de Nostradamus, aperçu en bref sur les livres, les hommes et les idées. Et nos réunions, c'est toute la liste des réunions d'Atlantis. Bien. Alors, Jacques Darès, on peut lire Atlantis, où on se loue de la fin des temps, mais on pourrait peut-être parler du sujet aussi dans le micro. Alors, est-ce que l'expérience que vous avez de ces questions, est-ce que la connaissance que vous avez des textes vous inscrit au nombre de ceux qui pensent que effectivement ça sent le brûler, ou est-ce que vous croyez que c'est encore un peu tôt?
Eh bien, c'est-à-dire que si j'étais normand, je vous répondrais oui et non, en ce sens que ça sent le brûler depuis déjà pas mal d'années, et même pas mal de décennies, mais que effectivement les choses se précipitent grandement. Vous voyez, pour se comprendre, c'est d'ailleurs très amusant parce que ce titre que nous avons donné à ce numéro, nous l'avons envisagé au mois de mai dernier, alors qu'il n'était pas du tout question de la guerre du Golfe. Bon. Et
sauf dans le livre de Jean Faure.
Ah ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, le point de départ de tous ces travaux, Jean Faure vous le dirait, c'est notamment toutes les lectures qu'il a faites de René Guénon et de Paul Lecourt. Deux hommes qui n'ont passé leur vie à se chamailler et qui en fait étaient parfaitement complémentaires l'un de l'autre. Et personnellement, je me suis intéressé à l'ensemble des traditions et des civilisations pour les comparer. Et c'est ainsi que pendant 12 ans, j'ai donné un cours d'histoire comparée des religions. Et je veux dire, ça m'a éclairé considérablement. Là-dessus, m'occupant déjà de la revue Atlantis, je découvre Jean Faure tout à fait par hasard, à dire vrai. Mais comme chacun sait, le hasard n'existe pas. Et nous collaborons, voilà, je crois, 28 ans que nous collaborons ensemble. Et un jour, nous avons décidé de faire 4 numéros de notre revue sur les cycles de l'histoire, à travers tous les aspects. Nous avons établi le plan ensemble. Il y avait la collaboration de 5 ou 6 personnes, mais la principale collaboration était incontestablement de Jean Faure, le résultat de ses réflexions à l'époque déjà de 10 ou 15 ans. Le temps a passé depuis, ceci se passait il y a 20 ans, pratiquement. Et en somme, l'autre point de départ a été le livre de Paul Lecourt, L'ère du Verseau. Ce livre est sorti en 1937 pour la première fois, et c'est Paul Lecourt qui, le premier en 1930, s'est intéressé à un phénomène d'ordre scientifique, incontestable, qui est la précession des équinoxes, le troisième mouvement de la Terre autour du Soleil. Et il s'est rendu compte que le Soleil passait à travers les 12 constellations du zodiaque dans un mouvement rétrograde et qu'il mettait environ 2160 ans à passer d'une constellation à une autre et qu'il y avait donc là un cycle énorme de 25 920 ans. Et quand on rapproche cette idée qui est incontestable sur le plan astronomique, la précession des équinoxes a été découverte et mise en équation, si je puis dire, par Hipparque, deuxième siècle avant notre ère, mais on est à peu près certain, pour quantité de raisons, que même les Égyptiens, 2000 ans avant Jésus-Christ, connaissaient déjà le phénomène de la précession des équinoxes. Et c'est ce qui a motivé, d'ailleurs, leur dieu, qui changeait, symboliquement parlant, et passé ainsi des dieux du taureau, en gros, dans les civilisations entre moins 4000 et moins 2000, et puis du bélier ensuite. Et comme par hasard, le soleil est entré dans la constellation des poissons, dans le signe des poissons, au début de notre ère.
Oui, c'est amusant d'ailleurs de voir que...
Les chrétiens sont représentés par des poissons, etc.
C'est amusant de voir que la symbolique suit exactement ça.
Pourquoi ? Parce que la symbolique, à mon avis, le symbole, c'est la mémoire de l'humanité. Surtout à l'époque où il n'y avait même pas l'écriture, et encore moins, évidemment, l'imprimerie. Et alors, ce cycle... Il est très intéressant de comparer avec les autres traditions. Les hindous, par exemple, connaissent quantité de cycles. Et ils disent que notre cycle d'humanité actuel, c'est le plus court pour eux, 64 800 ans.
C'est le Kali Yuga.
Le Kali Yuga, c'est la fin de cet âge. Et justement, tout concourt. Bon, nous n'avons pas le temps de développer le détail. Il faut lire soit l'ère du Verseau de Paul Lecourt, soit le complément indispensable, le cycle de l'humanité adamique de Jean Faure, les deux édités chez Derville d'ailleurs, et pour se rendre compte de la chose. Nous sommes pratiquement justement à la fin, non seulement de l'ère des poissons, avec la transformation telle de la chrétienté que ça ne peut plus durer longtemps, mais à la fin d'un cycle, et d'un cycle complet qui correspond aux quatre âges de l'humanité, tels que, par exemple, Hésiode en a parlé dans ses travaux et les jours. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'âge de fer. Au milieu de tout cela, nous avons en plus, pour conforter l'idée, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il suffit de relire des évangiles.
Alors là, je crois qu'on pourrait, on pourrait demander à,
c'est tout un ensemble.
À Nicolas qui en a relevé quelques-unes, je crois.
Oh oui, certainement.
Vous parliez tout à l'heure des prophéties. C'est intéressant de voir que Brignot, la semaine dernière, je l'ai cité d'ailleurs, dans sa... Non, c'est pas Brignot, pardon.
C'est Mathilde.
Oui, je mélange parce que comme je parle tout le temps de National Hebdo, ben forcément, je finis par mélanger les auteurs. Donc Mathilde Cruz racontait, donnait quelques traductions de Nostradamus relatives à la situation actuelle. Et c'est quand même assez troublant, il faut dire.
Oui. Il y en a.
Vous avez retrouvé les textes?
Non, moi c'était des. J'avais pris des prédictions sur le. Sur le grand monarque, mais enfin bon, on peut citer une prédiction de Saint Césaire d'Arles au VIe siècle.
Elle est très importante.
Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule, qui tombe dans un grand incendie noyé dans le sang, puis la seconde ville du royaume, donc Marseille, et encore une autre seront détruites. Puis une autre prédiction quelques siècles plus tard de Marie à la Salette. Paris sera brûlé et Marseille engloutie, plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout sera perdu. On ne verra comme ici, on n'entendra que bruit d'armes et blasphèmes. Puis évidemment la prédiction de Fatima. La grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du XXe siècle. Du feu et de la fumée tomberont alors du ciel et les eaux des océans se transformeront en vapeur, crachant leur écume vers le ciel, et tout ce qui est debout se renversera. Alors on a évidemment une...
On n'est pas parti pour rigoler. Hein. Je vous rends la parole. Mais...
Alors reste à savoir justement si nous en sommes encore déjà là ou non. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est très frappante et que Jean Faure a souligné à plusieurs reprises dans d'autres numéros d'Atlantis, y compris dans ceux que nous avons consacrés à la Révolution française à l'occasion du bicentenaire, parce que 1789 est une date, justement, c'est un point de départ des tribulations de l'Apocalypse oui, dans lesquelles nous sommes actuellement.
Jean indique bien le 25 décembre 1989 comme date clé de la grande doryphorie, oui. C'est-à-dire de la concentration voilà. De planètes lentes. Et ce 25 décembre 1989, on a été servi, ça a été la mort de Ceausescu, l'éclatement apparent du bloc de l'Est, c'est-à-dire oui. Le début vraiment de ce qu'il est possible d'annoncer. Avec, quelques mois plus tard, la guerre Irak-États-Unis et avec la possibilité d'une offensive soviétique que nos milieux ont plus ou moins deviné quoi, par rapport à tout ce qui se passe entre l'Irak et l'Union soviétique depuis le début du conflit. Et donc, cette date 25 décembre 1989 est vraiment un détonateur dans l'histoire, un déclencheur dans l'histoire.
C'est un déclencheur exactement 200 ans après la Révolution française, et c'est un déclencheur sur le plan cyclique, parce que c'est très intéressant de resonger, vous savez, dans l'Ancien Testament, le fameux songe du roi Nabucodonosor, et du prophète Daniel qui va l'interpréter. Cette statue qui a une tête d'or, un corps d'argent, des jambes de bronze et des pieds d'argile ou de fer. Ça correspond, symboliquement parlant, exactement aux quatre âges de l'humanité. Et il est dit que il suffira d'une chiquenaude au dernier moment, au moment de l'âge de fer, pour que l'ensemble de la statue s'écroule. Or, l'Ancien Testament parle de manière précise pour qualifier les temps qui vont suivre.
Alors, si vous multipliez 360 ans, un cycle, multiplié par 7, cela vous donne un certain nombre d'années. Or, on connaît parfaitement sur le plan historique la date de Nabucodonosor. Ajoutez-y les 7 années d'années, qu'est-ce que cela vous donne? 1917.
C'est-à-dire de moins 603 à 1917, qui voilà. Donne donc 2520.
Ça donne 1917, qui est la première guerre mondiale, avec oui. L'intervention des États-Unis, avec Fatima, avec la déclaration Balfour, le retour des Juifs en Palestine, possible grâce à cela... qui était justement un des signes avant-coureurs prédits dans des textes. Or, dans cette notion de cycle, il y a un nombre d'années précis qui est très symbolique, puisqu'il est même celui du rythme normal de notre cœur, c'est le nombre 72. Et si vous ajoutez 72 ans à 1917, cela vous donne 1989. Et qu'est-ce que cela vous donne au total ? Cela vous donne 2590 années, c'est-à-dire exactement le dixième du temps que met le soleil pour parcourir les 12 signes du zodiaque. La tétractice pythagoricienne, le dixième, exactement. Je crois donc que c'est frappant parce que là nous avons affaire à des choses qui dépassent la volonté de l'homme. Le problème, il est le suivant en deux mots. Toutes sortes de catastrophes nous sont annoncées. Nous avons éventuellement la possibilité de les éviter, encore au moins partiellement, par la prière, si nous acceptons de revenir à cette notion qui me paraît essentielle, c'est de l'homme spirituel. Or, actuellement, en Occident notamment, on a perdu pratiquement, presque définitivement, sauf quelques exceptions, fort heureusement, l'idée que l'homme soit doué de l'étincelle de l'esprit. On ramène l'homme à l'état d'un animal, pratiquement, c'est-à-dire d'un corps de chair qui est animé, qui a une âme, et puis c'est tout. La notion de l'esprit, il n'y a plus. Or, cette notion spirituelle, mais dans les faits actuels, que ce soit à tort ou à raison, que Saddam Hussein se proclame tout à coup l'homme qui veut provoquer la guerre sainte, qu'il ait été ce que voudrait, qu'il ait été athée, qu'il soit provisoirement ceci, cela, ça n'a pas d'importance. Comme par hasard, chez ces peuples-là, on a encore la notion de spiritualité, même si elle est mauvaise.
Je ris parce que...
La notion, tandis que chez nous, nous ne l'avons plus. Voilà. Et voilà ce qui explique le fait que l'Occident ne peut pas comprendre la mentalité des autres, et vice-versa.
Non mais je riais parce que je pensais à Mitterrand en faisant d'un seul coup un discours mystique, en disant, bon écoutez, tout le monde dans les églises, il faut prier, et effectivement ça colle pas. Or c'est exactement ce qu'a fait Saddam qui était un leader laïque.
Exactement.
Saddam Hussein qui était un leader laïque et même probablement totalement athée, oui. D'un seul coup, il s'est dit, oups, bonne idée, voilà. Alors j'appelle à la djihad. Et oui, Pierre Pellissier, oui,
vous avez un exemple en mai 40, où le gouvernement français est parti à Notre-Dame, oui, toute religion confondue.
Absolument. Là, à l'époque, ça pouvait encore se faire.
Oui, hein? Ça n'a pas vraiment, vraiment marché, mais je crois que la diversité des religions présentes était peut-être quelque chose.
Ça manquait peut-être un peu de conviction, parce que c'est vrai, quand les trois premiers rangs de l'église étaient bourrés de francs-maçons, les deux suivants de juifs, les trois autres de musulmans, etc., ça, le bon Dieu, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'il vient de faire,
là? Il n'y avait
pas beaucoup de musulmans. Non, il n'y a pas beaucoup de musulmans.
Non, à l'époque, non, il n'y en avait pas beaucoup.
Alors donc, voilà, mais il y avait...
On n'a plus la foi, mais on a beaucoup d'imagination, parce que finalement, on a transformé Saddam Hussein en figure littéraire, en docteur Fu Manchu. Comme de le docteur Fu Manchu, il devient à peu près invisible. Puisqu'on ne sait plus où il est, c'est François qui en parle.
Docteur Mabuse aussi.
Oui, docteur Mabuse aussi. Hein. Il a bu comme également, il se dédouble. Donc, c'est un peu...
Il a des sosies.
Oui, il a des sosies.
Comme l'ombre jaune.
On ne sait plus qui c'est, ouais. Il va utiliser des terroristes. Et le docteur Fu Manchu utilise des thugs. Vous savez, les fameux assassins, les étrangleurs hindous. Et qui évoquent évidemment la secte des assassins des croisades.
La déesse Kali.
La déesse de la mort, la déesse noire qui est donnée Kali Yuga. Saddam Hussein est très cruel comme le docteur Fu Manchu. Et alors, il tue par les gaz. Or, Fu Manchu tue lui par les parfums mortels qui montent à travers les plantes. Ouais, c'est l'opium du peuple. Et ensuite, bon, il utilise évidemment le fanatisme. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'autres écrivains que Sax Rohmer, auteur de Fu Manchu, avaient annoncé ce conflit Orient-Occident. Ça donnait le Skull Face, la nouvelle Skull Face, c'est-à-dire tête de crâne, et l'homme noir de Robert Howard. Et c'était annoncé par cet écrivain texan, donc qui s'est suicidé à 30 ans après avoir écrit une œuvre énorme, dont Conan, que nous aimons tous, Conan le barbare, ou Conan le barbant pour les gens de gauche.
Pour les gens de gauche.
Pour les gens de gauche. Donc ça a donné, Howard donc a pu prédire de cette manière, enfin figurer d'une manière très, très romancée, c'est le cas d'ailleurs, très romanesque, cette guerre de l'Occident contre l'Orient. Puis enfin, bon, il y a quelque chose d'étonnant chez Saddam Hussein, c'est aussi l'ubiquité, on ne sait plus où il est, alors ça rejoint le plan, ce dédoublement, c'est un petit peu comme dans La Dame de Shanghai, on ne sait plus trop où le situer d'un écran de télé à un autre. Finalement, il évoque un petit peu ce que Powell et Bergier annonçaient il y a 30 ans, Louis Powell et Jack Bergier, le matin des magiciens. Alors lui, c'est une espèce de magicien qui utilise à la fois des gaz, des moyens modernes, grâce entre autres évidemment au KGB, et également une espèce de terrorisme mental pour tétaniser les populations occidentales et essayer de les vaincre de cette manière. Donc c'est un personnage qui est, à défaut de susciter un réveil de la foi en Occident, au moins suscite beaucoup d'imagination dans les médias. Puisque dans Libération, on l'a appelé Saddam Alien, donc Saddam l'autre absolu, l'étranger, l'homme que l'on ne peut plus du tout connaître. Quoi.
Ouais, il y a sur
le huitième passager du vaisseau Terre.
Sur le sujet d'Alien, il y a un texte que j'avais gardé. Moi, je vais pas vous en affliger la lecture parce qu'il est d'une grande complexité. En plus, je l'ai perdu. Mais c'est une interview de Félix Guattari, le psychiatre, donc fou, comme tous les psychiatres, à deux ou trois exceptions près. Mais c'est une interview donc parue dans Libération, sur l'autre, l'autre, l'arabe représentant l'autre. Et Guattari dit une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que cette guerre fait changer l'autre. C'est-à-dire qu'on avait une image de l'arabe, l'Occident avait une image de l'arabe jusqu'à présent, et que l'arabe, l'Orient plutôt, avait une image de l'occidental, que ces deux images sont complètement bouleversées, et qu'on ne sait pas du tout à quoi ça va aboutir. L'image de l'occidental dans l'imaginaire des Arabes a changé, et modifié radicalement par cette guerre, et de même, l'image de l'arabe est modifiée en profondeur, dans l'imaginaire des Occidentaux, et on ne sait pas à quoi ça peut aboutir, cette opposition. Ça aboutit simplement à mettre en présence des gens qui ne se reconnaissent plus. Et bon, pour une fois que Guattari dit quelque chose d'intelligible, il ne faut pas manquer l'occasion de...
Et on peut renvoyer à l'éditorial d'il y a 15 jours de notre camarade Jean Ederne dans l'Idiot International, qui n'était pas piqué d'un ton et qui lui vaut d'ailleurs un procès de la LICRA.
Oui,
mais où la vision de l'autre, style discussion de caissier du commerce, n'est pas mal du tout. Oui. Mais il se retrouve devant les tribunaux.
Oui. Ce qui est intéressant sociologiquement, c'est de voir comme les médias tombent dans les pièges les plus grossiers de la propagande. C'est vraiment la propagande telle qu'on l'a connue.
Ils sont la propagande.
On a l'impression qu'ils ne la font pas, qu'ils la subissent curieusement. Qu'aucun ne pose la question, mais pourquoi aujourd'hui on nous présente, moi j'ai pas de sympathie spéciale pour Saddam Hussein, hein, je m'en fiche un petit peu à la limite, mais
Personne ne se pose la question pourquoi avant était-il formidable et pourquoi maintenant est-il ignoble.
C'est ça, moi je voudrais
c'était, je crois qu'il était, on l'a considéré comme formidable uniquement par opposition à Roménie en Iran.
Oui, je crois que
c'est pas la uniquement ça, c'est uniquement pour l'essentiel.
C'était aussi une vision d'un État moderne et qui se débarrassait de l'islam. Voilà.
Moderne et laïque qui se débarrassait de l'islam et qui, sur lequel on espérait que l'intégrisme de l'islam ne reprendrait pas le dessus.
Puis enfin, écoutez, je crois pas qu'il faut.
Oui, mais ça n'était pas un état
religieux. Je ne crois pas qu'il faut sombrer dans l'angélisme. Je crois pas qu'il faut sombrer dans l'angélisme. Le caractère le plus sympathique de Saddam Hussein, c'était son carnet de chèques. Il a financé les partis en France, tous les partis en France, à l'exception du Front National, il faut bien le dire, puisque le Front National pouvait rien faire pour lui. Autrement, il aurait probablement essayé de donner de l'argent, mais ça servait à rien. Donc, il est pas fou, Saddam Hussein. Il donne pas de l'argent aux gens qui servent à rien.
Oui, sauf quand même qu'au dernier congrès du Parti Socialiste, cette année qu'il y a eu, il y avait des représentants du Parti Basque. Il y avait quelqu'un qui était là, qui était au premier rang.
Absolument. Deux représentants du Parti Basque qui étaient invités, et qui d'ailleurs ont fait un scandale quand ils sont arrivés à Rennes, parce que les représentants du Parti Socialiste Israélien étaient logés dans un meilleur hôtel. Et ils ont dit, mais voyez, vous êtes des racistes, vous nous logez dans un hôtel de seconde zone.
Et quels représentants du Parti Israélien Socialiste ont refusé de rentrer dans la salle si les représentants irakiens y restaient, déjà. Ce qui a créé un peu de dissension à l'intérieur du Parti Socialiste lui-même, où plusieurs ethnies se chevauchaient.
Alors, revenons quand même au cœur de cette conversation. C'est le caractère symbolique de ce qui se passe en ce moment, la force. Pierre Descaves fait son entrée dans le studio. Bonsoir Pierre. Mais Paul, tu peux rester avec nous. Donc, quand vous observez, d'une part, les travaux de gens comme vous-même, ou comme Faure, ou comme d'autres, sur la fin des temps, sur l'approche de cette, la fin du temps, de notre temps.
De notre temps, la fin de notre monde, qui n'a rien à voir avec la fin du monde, bien sûr.
Voilà. Et que vous voyez en parallèle la situation internationale, est-ce que ça vous inspire une réflexion particulière? Est-ce que vous avez l'impression que tout ça a été annoncé d'une façon précise?
De manière précise, certainement pas. Mais tout dépend ce qu'on met derrière le mot précis. Bon. Il y a un certain nombre d'échéances qui me paraissent à peu près inéluctables. Et voyez-vous, moi, je raisonne de la manière suivante, de manière très prosaïque, tout à fait les pieds sur la terre. Quand je constate que un certain nombre de traditions, d'une part, alliées à un certain nombre de questions d'ordre scientifique, d'autre part, provenant de traditions diverses, se recoupent les unes les autres, que, à travers cela, toutes les prédictions et prophéties dans les textes sacrés ou plus récemment dans, justement, les nombreuses manifestations de la Vierge Marie, par exemple, ou autres, depuis 1830, la rue du Bac, parce que, justement, cela se précipite maintenant, et quand je vois que les trois quarts, quand je dis 80-85% de ce qui était annoncé est réalisé ou en cours de réalisation, je me dis, mais il n'y a aucune raison pour que la suite ne se passe pas non plus. Ou alors je suis un idiot complet. C'est ça qui me fait réfléchir. Mais pour cela, encore faut-il se donner la peine de rechercher l'ensemble de ces traditions, de rechercher la signification profonde de ces symboles, et bien entendu sans tomber dans aucune des erreurs que font certains de nos jours, où on finit par raconter n'importe quoi. Bah, il faut en permanence se recouper et s'attacher à des traditions précises, à des textes considérés comme sacrés ou non d'ailleurs, parce que il y a tous les textes sacrés, il y a tous les autres, il y a tous les documents historiques, il faut les comparer, il faut voir le cours, il faut voir le contre, et là tout à coup on dit, ah ben flûte alors, on est dans cette situation-là, et alors on s'aperçoit, si vous voulez, pour revenir au point précis, que le déroulement, notamment lorsque l'on essaie, je dis bien essaie, parce que c'est très difficile, d'interpréter l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un très gros morceau en la circonstance. Bon. Et quand il parle des sept sceaux qui seront brisés, des sept anges, des sept trompettes, etc., le nombre sept étant un nombre symbolique, en rapport avec la création, justement, et notre monde manifesté, et que l'on voit à certaines des prédictions précises, mais la transposition est presque faite. Alors, où en sommes-nous? C'est là où nous avons voulu nous poser la question. Nous ne sommes pas du tout à la fin, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Cette année que Nicolas Bonnat rappelait avec juste raison tout à l'heure, 1989, qui a été si essentielle avec cette doryphorie, c'est un point de départ. Mais les choses vont aller très vite. Songez que Vlecu Ionescu, par exemple, envisage carrément à travers Nostradamus que le règne de Gorbatchev a 9 chances sur 10 de disparaître au milieu de l'année 91 dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que cela provoquera? Alors, rien n'est prévu, c'est très difficile d'interpréter. Mais quand on réfléchit au cheminement, au pourquoi et au comment de tous les événements, on se dit, ben oui, effectivement, c'est pas impossible du tout. Nous ne savons pas s'il sera assassiné, s'il sera celui. Moi, je lui souhaite longue vie en tant qu'homme. Pour le reste, c'est un autre problème. Mais nous n'en savons rien. Il est évident que la situation dans laquelle il est au sein de l'URSS pose problème.
C'est d'ailleurs peut-être pas très charitable de lui souhaiter longue vie.
Non, peut-être pas. Parce qu'au surplus, étant donné certains des procédés qui sont utilisés à droite ou à gauche, voilà. On ne sait jamais ce qui va
arriver. Il y avait un dessin, je crois que je l'ai déjà dit, un dessin formidable de Conque, qui a été publié dans Minute La France. C'était, on voyait le camarade Gorbatchev. La question posée était, Gorbatchev, l'autorité de Gorbatchev est-elle atteinte, est-elle entamée? Et on voyait Gorbatchev en tenue de bagnard qui s'appuyait sur une pelle devant un fond de mirador et de fil de fer barbelé et qui disait, en effet, j'ai dû abandonner certaines de mes prérogatives.
Alors, oui. Non, il y a une autre notion qu'il faut avoir à l'esprit là-dedans, c'est ce dont parle justement Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est cette histoire de l'antéchrist. L'antéchrist, les faux prophètes, les faux Christ, qui doivent se manifester avant que certains événements se passent.
Là, ça pullule en ce moment.
Ah bah exactement.
Il y a une question, justement.
Ça pullule.
Une question sur le New Age.
Ah, oui, bien sûr.
Plusieurs, je vois.
Que pensez-vous du New Age, vous demande un
oui,
un
eh bien, je dois dire que en fonction du le petit bout de l'émission de télé que j'ai vu hier soir, bon, c'est vraiment le melting pot, si je puis dire. On y met tout et n'importe quoi. En fait, c'est très grave, justement. Parce que c'est un des moyens des forces du mal qui se manifestent. Nous sommes à une époque, et là aussi ça a été annoncé, où les forces du mal se déchaînent, et se déchaînent encore plus vis-à-vis de tous ceux qui tentent de retrouver l'authentique tradition spirituelle de l'humanité,
ça, on
notamment du christianisme.
On le voit alors d'une façon extraordinaire.
Mais c'est étonnant.
Bon,
bien sûr.
Il y a j'ai l'habitude de dire que c'est pas moi qui le dis. Enfin, c'est connu qu'un des principes du discernement des esprits consiste à discerner le grotesque.
Oui.
Et il y a des moments d'un grotesque achevé qui montrent la griffe du grappin. Par exemple, dans le numéro de l'Express là qui sort aujourd'hui, il y a un papier de monsieur Yves Kuo. Bon, Yves Kuo, c'est un homme, je ne sais pas du tout quel âge son âge, mais c'est un journaliste qui, cinquantaine d'années, ou peut-être un peu plus, qui depuis des années est un être doué de raison. Il est raisonnable, il écrit, on n'est pas d'accord avec lui toujours, peu importe. Il donne un témoignage d'intelligence paisible, appliquée, etc.
Conformiste,
c'est évident, mais enfin. Or, aujourd'hui, il publie un papier qui est un vomissement de haine absolument inimaginable. Mais c'est un hurlement de mort qui est glaçant quand on... Alors, si c'était un hystérique de la plume, un dingo, un Jean Edernalier ou un truc comme ça, on dirait, bon, après tout, ça mange pas de pain, c'est normal. Mais là, il y a une pleine page sous la signature des Fio, on n'est que par-dessus tête. On se dit, c'est pas possible, ils ont imprimé un faux artiste, un canular. C'est absolument effrayant de haine torrentielle, de haine en fusion, c'est affolant. Ça se résume à une chose, il faut tuer Saddam Hussein. Mais ça prend quand même une page entière de l'Express pour dire cette chose.
Oui.
Alors, et c'est exprimé en plus sur le thème... on se fout de la morale, on se fout de la philosophie, tout ça n'a aucune importance, aucun principe n'est à recevoir.
qu'il se rende, qu'il vienne implorer son pardon, la corde au cou, et en rampant n'importe, tout ça n'a aucune valeur. Il faut lui écraser la tête, il faut écrabouiller la bête immonde, c'est un numéro d'hystérie. Bon, là, on sent vraiment que cette guerre rend fou les gens, les rend fous furieux.
Il n'y a aucun doute.
Il y a un autre exemple de cette espèce de folie curieuse de la fin des temps, enfin, ou en tout cas de la présence du grappin. Et qui s'est passé, alors c'est minime, ça s'est passé hier, j'ai vu ça tout à fait par hasard, en zappant dans l'émission de Chavannes, il avait invité une comédienne qui appartient au groupe du Splendide, qui s'appelle Dominique Lavanan, qui est une bretonne, un peu genre Françoise Rosay, un peu vigoureuse, comme ça, marrante et tout. Et le jeu consiste à faire une espèce de portrait de la personne en disant qu'aimez-vous et que n'aimez-vous pas. Alors, elle répond, et à ce qu'elle n'aimait pas, dans ce qu'elle n'aimait pas, il y avait « Je n'aime pas l'enfant roi », en résumé, une bonne fessée n'a jamais tué personne, et « Je n'aime pas la jeunesse qui a toujours raison, parce que les jeunes n'ont pas plus raison que les vieux. On dit toujours qu'il y a des vieux cons », dit-elle, « et ben, je trouve qu'il y a aussi des jeunes cons ». Alors déjà, ça, ce genre de propos... le péniste, il faut bien dire, quoi. C'est pratiquement c'est du nazisme à l'état pur. Ça déstabilise un peu de Chavannes. Et là-dessus, il dit « Et qu'aimez-vous ?» Et alors, elle cite des choses comme « Bon, je sais pas, j'aime la choucroute, ou j'aime la couleur bleue, les amis, la sincérité. » Et elle dit « Et j'aime la chapelle miraculeuse. » Et là, l'autre prend ça en pleine poire, il dit « Pardon ?» Il dit « Oui, j'aime la chapelle miraculeuse, qui est une chapelle qui se trouve rue du Bac, qui est un lieu d'une extraordinaire ferveur, où du monde entier, on vient prier la Sainte Vierge. Et je voyais le père de Chavannes qui se décomposait. On avait l'impression d'un diabotin qu'on aurait attaché sur un siège pour lui balancer des seaux d'eau bénite à la figure. »
Sur un cierge.
Et alors, il était vraiment affolé, mais ça se voyait. Il avait les yeux qui boulaient, il regardait à droite à gauche en disant « Mais elle va s'arrêter, elle va s'arrêter !» Alors, quand c'est le diable, on sort un crucifix, il s'en va. Mais quand c'est le contraire, qu'est-ce qui pouvait sortir?
Alors il
lui dit, alors à la fin, il était comme, vraiment effrayé. Il lui dit, et comme s'il lui avait demandé une cochonnerie, il lui dit, mais vous priez beaucoup? Et elle répond, oui, beaucoup. Et là, le bonhomme, il reste pantois, ça dure quelques secondes, complètement silencieux. Il dit, mais c'est pas vrai, j'ai introduit le loup dans la bergerie. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé, pour la déstabiliser, c'était assez frappant, à ne dire que des cochonneries. C'est-à-dire que tout devenait allusion salace, pornographique, cochonne. Voilà. Et la mère Lavanan, imperturbable, ne riant pas du tout, absolument pas complice, aucun respect humain, c'est UMIN, bien entendu, se foutant de ces gens-là. Et un des journalistes qui était là, dit, je vais qui s'appelle Renaud, mais qui a rien à voir avec le déchanteur.
Oui, qui est aussi décoloré.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça doit être de la même boutique. Dit, je vais raconter une histoire où le Vatican est ridicule, ce qui me fait bien plaisir. Alors elle le regarde et lui dit, eh ben, moi, je ne vais pas vous écouter. D'ailleurs, je ne vais pas rire. Et d'ailleurs, je ne vais même pas vous regarder. Et elle lui tourne ostensiblement le dos.
Bon, que c'est une partie
ça, c'est un moment. Ça. Coup de chapeau Dominique Lavanan d'abord. Et puis, c'est tout à fait étonnant parce qu'on voit le plus important dans cette histoire, le plus frappant, c'était que ça montrait bien comment, avec des moyens extrêmement simples, on met en déroute l'adversaire. En disant, moi je prie. Alors là, c'est la panique totale. Je crois à la Sainte Trinité.
Alors, il faut simplement, justement, avoir le courage de le dire.
Mais oui, parce qu'ils sont tombés sur une actrice courageuse.
Voilà,
exactement. Une autre qui, d'ailleurs, pourrait prier, se serait écrasée, aurait ri complaisamment, etc. C'est un grand courage, quand même.
Ah oui, vous avez parfaitement raison.
Parce que là, elle est grillée, si j'ose dire.
C'est une sacrée bretonne. Pierre Descaves.
Oui, je voudrais revenir sur Yves Cuaux. Moi, je fais une remarque, et je crois que tout le monde l'a fait. Je regarde beaucoup la télévision, je lis quelques journaux. Tu m'apprends qu'il y a cet article dans l'Express. Il me semble que ce sont ceux qui ne risquent pas leur vie qui sont les plus acharnés à combattre. Ils combattent derrière leur micro ou au bout de leur porte-plume, ils risquent pas d'y laisser leur vie.
C'est pareil pour les
régiments
d'ailleurs.
Ils sont très sanguinaires.
Je te donne un petit exemple. À l'époque où je me battais avec Roger Hollande, qui l'avait créé au Front uni de soutien au Sud-Vietnam, et donc pour l'intervention américaine à l'époque qui faisait barrage au communisme comme on l'a vu puisque quand même l'Indochine est sous la botte, il y avait en face de moi des gens comme Guy Konopnicki par exemple, qui au premier jour du bombardement a fait un article ignoble ce sont les pilotes de Top Gun, regardez, ils ont la gueule de Robert Redford, et j'ai même pas eu honte d'applaudir, etc. Je crois que ça aussi, c'est quand même un signe des temps et un signe de la bête, sans doute.
Oui,
dans le cas d'Ifkio, je peux vous dire, je connais bien Ifkio, que le mot, vous avez employé le mot de paisible, représente parfaitement Ifkio, qui est un garçon parfait intellectuellement. Je signale quand même qu'il était un officier très courageux.
Oui, mais c'est ça qui est très, très bizarre, très inattendu.
Ce que je dis qu'aujourd'hui, moi, ce sont les plus acharnés qui prennent le moins de risques. Il a pris des risques à l'époque, bravo pour lui, je n'ai rien à lui reprocher à son passé.
On va partir en première ligne quand même, ça fait beaucoup de monde.
Oui, il y en a pas beaucoup, justement, il y en a 14 000.
C'est pareil pour les PA, puisque plus ils sont loin du front, plus ils sont déchaînés contre l'Occident, Israël et le reste. Hein.
Oui,
c'est
vrai
qu'il y a les manifestations les plus violentes, et en Syrie, les gens sont sages, parce qu'ils sont tout près des bombes américaines.
Oui, les forces centripètes du courage, là, s'expriment.
Sauf la Jordanie, quand même, où il y a des mouvements, et ils sont à portée.
Oui, mais là, c'est des Palestiniens, donc c'est très différent.
Et
les Marocains, je tiens à le dire, sont des soldats très courageux, qui, notamment dans la guerre du
ils sont connus pour
être les seuls à ne pas galoper.
Je voudrais qu'on s'éloigne pas trop encore que c'est intéressant qu'on s'éloigne pas trop de notre sujet. Et je voudrais, puisque on va mettre un terme à cette conversation, je pense que beaucoup de choses sont dans Atlantis, dont on va donner l'adresse puisqu'il y a des auditeurs qui la demandent, ce qui est bon signe. Mais est-ce que vous avez peur, vous, en ce moment?
Non. À titre personnel, à dire vrai, non, je n'éprouve pas cela, même si, parce que, bon, si vous voulez, pour moi personnellement, je m'en fiche éperdument. Bon. Je pense que nous ne sommes que de passage sur cette terre, et qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être d'une toute autre façon,
mais rien du tout. Je voudrais vous dire une chose. Même si on est de passage chez des amis, on n'est pas forcé de s'en aller en sautant par la fenêtre du 8e étage.
Et je suis
agréable de descendre l'escalier.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon. Non, je me rends compte que il y a de grandes chances pour qu'il y ait un certain nombre de catastrophes plus importantes que les catastrophes même actuelles. Mais il faut bien songer qu'il y a des rémissions. Nous avons vécu ce qu'on a appelé l'antéchrist légion, comme le communisme par exemple. Bon. Nous risquons d'avoir l'antéchrist homme, la fameuse bête de l'Apocalypse. Bon, n'entrons pas dans le détail à ce propos, chacun a raconté les pires bêtises. On n'a aucun moyen de savoir. Mais ce qu'il faut surtout savoir...
Il y en a même qui ont dit que c'était tapis. Bon, ce qui me paraît quand même d'un niveau un peu plat.
Ça, il n'y a aucun doute.
Bon. C'est peut-être le petit orteil du pied gauche de l'antéchrist.
Pour le peut-être. PS, peut-être. Bon.
Mais en fait, voyez-vous, nous sommes dans une situation, en même temps, je vais essayer de répondre à l'auditeur ou l'auditrice qui demandait est-ce que je pensais de ce New Age, ce nouvel âge. Nous sommes d'abord dans un monde qui est de plus en plus en pleine contradiction. Sur tous les plans. Bon. Nous parlions justement des forces du mal, antéchrist, quelles que soient les forces négatives dont on sait qu'elles existent, elles se manifestent, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, et il y a mille et une façons pour qu'elles se manifestent, et de plus en plus maintenant. Souvent de manière sournoise. Ou bien vous avez des choses carrément destructrices, comme l'a été le communisme, etc., ou quelques autres choses du même genre, ou bien alors, sous prétexte que l'on aime, que l'on veut aimer son prochain, son ceci, son cela, on en arrive justement à cette notion de nouvel âge qui est promis par les prophéties. Ah oui, mais le seul ennui, il n'est pas promis pour tout de suite. Avant, il y a la fin des tribulations de l'Apocalypse. Il y a toutes sortes de notions, et il y en a une qui est totalement évacuée dans le New Age. Totalement, alors. Mais c'est que l'ensemble de ces prophéties, elles concourent à quoi? Vers une chose précise. Le retour du Christ sur la terre. Pas sous la forme d'un homme, a priori. Qui doit mettre les nations à la raison avec une verge de fer. Et j'ai nettement l'impression que nous en avons grand besoin. C'est la fin du temps des nations. Parce que qu'on le veuille ou non, et c'est là aussi les contradictions, y compris sur le plan politique, qu'on le veuille ou non, qu'on soit nationaliste au sens habituel du terme, c'est plus qu'honorable, c'est même souhaitable. Mais le seul ennui, c'est que nous sommes dans un environnement dont, sur lequel nous n'avons que très peu de prise et qui est devenu bon gré mal gré mondial. C'est une préfiguration qui se cassera la figure. Une préfiguration de ce qui doit venir après. Bon. Mais l'ennui de ce New Age, étant donné qu'on ne parle pas du retour du Christ, et pour cause, on a évacué cette notion spirituelle dont je parlais tout à l'heure. L'homme est devenu Dieu lui-même. Et on vous dit, on nous l'a dit encore hier soir dans cette émission, genre, bon, ben, il s'agit de se trouver bien dans son corps, en bon équilibre avec la nature, etc. Plein de bons sentiments. Le seul ennui, c'est que comme c'est l'envers, l'anti-tradition, sur tous les plans, on est sûr que ça se cassera la figure. Et c'est un moyen indirect que prennent les forces du mal pour tenter l'homme, qu'il l'entraîne. On est entraîné, bon gré mal gré. On a oublié l'essentiel. On a oublié qu'à travers cette notion de cycle, si c'était tout de même pas pour rien qu'il y a 2000 ans, contrairement à toutes les autres religions antérieures, aussi loin qu'on puisse remonter, c'est pas pour rien que Dieu lui-même s'est incarné en homme. Ce n'est pas comme dans les autres religions, des hommes dont on a fait des dieux. Bon. Il est venu là pour rétablir quel est le message catholicos, enfin universel. Alors reconnaissons que malheureusement, à mon avis, je n'engage que moi, le christianisme, dans son ensemble, plus ou moins peut-être dans telle ou telle forme, le christianisme a en grande partie perdu l'essentiel de son message. La preuve, c'est que maintenant, on ne nous dit plus que le christianisme, on emploie toujours le mot catholique. Mais à partir du moment où vous mettez sur le même pied des religions qui ont des hommes comme Dieu et celles qui a Dieu au sommet, vous ne pouvez pas être à égalité. On a supprimé complètement la portée totale du message chrétien qui permet de comprendre l'idée du retour du Christ. Alors, cela s'explique parce que nous sommes en involution depuis la chute. C'est tout le problème de la chute du paradis terrestre, de la perte de la tradition primordiale, qu'il s'agit de retrouver, mais que nous ne retrouverons que plus tard, dans le futur âge d'or, après l'Apocalypse, et pas à travers celui qu'on veut nous fabriquer artificiellement. Vous voyez la nuance qui en arrive à une contradiction totale.
Merci Jacques Dresse. Voilà. Nicolas Bonnal.
Oui, sur ce New Age, c'est un des derniers avatars des utopies qui apparaissent au moment donc où la contre-tradition sort vraiment, enfin en Europe, en Angleterre surtout, avec la première utopie de Thomas More. Ces utopies sous Swift jusqu'à Huxley, on les retrouve. Alors il y a deux types d'utopies. Il y a l'utopie lucide, comme celle du prisonnier qui passe tous les lundis soirs sur M6 à 23h10. Et puis il y a l'utopie contre-initiatique, l'utopie piège, qui essaye effectivement d'enfermer l'homme dans un monde, comme donc dans celui de Thomas More, en général non violent, très cool, justement, au sens vraiment moderne du mot cool, Campanella et la Cité du Soleil. Donc enfermer l'homme également dans un univers de confort, sécurisant, le welfare state, c'est-à-dire l'ordinateur des cosmonautes dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et en sachant évidemment comment termine cet ordinateur. C'est-à-dire il finit par, comme le père Hugolin, par tuer ses enfants pour leur garder un père. Et c'est comme ça que se termineront toutes les utopies.
Eh oui.
Bien, ben, je ne sais pas si on a fait beaucoup avancer le schmilblick, mais enfin,
ce qui est triste, c'est de voir que cette notion de New Age est devenue en définitive un truc, littéralement un truc, pour vendre de la fripe vendre de la nourriture surgelée.
Ça, c'est plutôt rigolo.
Non, mais, c'est triste, parce que ça fait partie du même processus.
Ça fait partie du même processus, et d'ailleurs, c'est pour cela que Dervy Live m'a demandé le livre de l'ère du Verseau qui continue ça, depuis 1937. C'est l'origine. D'ailleurs, récemment, il y a eu un article dans lequel on citait Paul Lecour et Hervé du Verseau en disant « Mais c'est ça l'origine du New Age !» Et on fait l'amalgame. Et du coup, je suis en train de préparer une nouvelle édition de le prochain tirage aura du coup une importante mise au point pour montrer comment c'est une utopie et comment, c'est, en quelque sorte, c'est un attrape-nigaud parce qu'on a complètement perdu l'essentiel. Okay. Évidemment, Paul Lecour, maintenant, bon, il est mort il y a 37 ans, ne réécrirait plus exactement la même chose. Rien, tout de ce qu'il a écrit est encore parfaitement valable, mais l'évolution s'est faite autour de nous de telle manière que maintenant il faut vraiment faire une mise au point.
Vous avez à la fin du règne de la quantité de Guénon un chapitre qui s'appelle la grande parodie ou la spiritualité
Exactement.
À rebours, et
oui,
donc
oui.
qui explique tout à fait cet amalgame que l'on retrouve également dans le domaine matériel, puisque maintenant il y a une 20% des produits vendus dans le monde qui sont contrefaçonnés. La contrefaçon oui. au ah, niveau oui. spirituel, au niveau
dans
intellectuel, au niveau matériel est devenue une grande situation pour cette société en perdition.
Pour comprendre très rapidement ce qu'est le New Age, enfin ce qu'est la pensée New Age, c'est tout à fait simple. Il suffit de penser que ce que j'appelle le grappin, on l'appelle aussi le singe de Dieu.
Oui.
D'ailleurs, c'est une espèce de caricature du divin, et que tout ce qu'il fait est une caricature. C'est pour ça que le prétendu amour, c'est une caricature de l'amour divin, etc. Et le New Age, c'est très exactement une caricature du paradis. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est pas la peine d'aller au paradis là-haut, on peut faire le paradis sur terre, tu es mon frère, tu es ma sœur, donnons-nous la main, aimons-nous, on va tous. Alors naturellement, ça se passe en Californie, parce que le truc de se balader à poil au milieu des prairies, si on fait ça en Suède au mois de novembre, on trouve que quand même le paradis sur terre, c'est pas exactement ce qu'on pouvait espérer. Mais en Californie, à Big Sur et dans ces coins-là qui sont effectivement des petits paradis sur terre, c'est tout à fait cool, c'est tout à fait sympathique et tout à fait genre. Mais c'est une caricature, c'est une singerie.
Ces gens-là ne se rendent pas compte que cette idéologie qui est la leur, et qui est excellente en soi, aimer son prochain, c'est ce qu'a demandé l'Évangile. Bon, c'est excellent, mais ils ne se rendent pas compte que, actuellement, compte tenu de l'évolution de nos civilisations, cela n'est pas possible sans une intervention surnaturelle. Et celle-là a été programmée aussi. Alors, pour l'attendre, il est dit prier.
Et prier.
Voilà.
C'est un bon programme.
Alors, ce que disaient les alchimistes, prie et travaille.
Et travaille.
Ne l'oublions pas.
Merci encore, Jacques Dresse. Alors, je rappelle que le dernier numéro d'Atlantis est non point l'ultime, le 364 de l'hiver 91.
Il est sorti avant-hier.
Oui, je rappelle que dans l'interview qu'il m'a accordé, Jean Faure parle aussi du grand monarque. Alors, je voudrais citer.
Oui, alors, justement, je voulais vous donner la parole tout de suite, mais allez-y, parlez-nous du grand monarque.
Alors, saint Augustin fait allusion à une prophétie au 4e siècle, donc saint Augustin qui est carthaginois, comme tout le monde sait. Quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'Empire romain dans toute son étendue. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde, il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Il rendra l'âme à Jérusalem sur le mont des Oliviers, et immédiatement après l'Antéchrist viendra. Saint Rémy déclare, lui, en 496, à la veille du baptême de Clovis, « Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'Empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. » Ce sera le 70e roi, donc un nombre solaire. « Il arrivera comme par miracle, il sera de la vieille cape, c'est-à-dire de la dynastie vraisemblablement des Mérovingiens, c'est la fameuse première race. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre. Et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. » Il y a eu également des prédictions de Saint Césaire, que j'ai déjà cité au 6e siècle, et de Saint Hildegard de Bingen au 12e siècle. Il est bon de savoir aussi, puisqu'on parlait des prédictions de la foi. Tout à l'heure, je disais que les Occidentaux faisaient montre de beaucoup d'imagination. Alors, il est bon de connaître un petit peu le contenu de la foi musulmane. Alors, on m'a dit, des amis musulmans, enfin des amis des relations musulmanes, m'ont dit que, à la fin des temps, donc, devait avoir lieu une occupation des mécréants sur les lieux saints, donc à la Mecque. Que les troupes de mécréants seraient commandées par un abyssin. Et évidemment, ils font immédiatement le rapprochement avec le général Colin Powell, d'origine jamaïcaine. Alors, ils disent également que c'est l'Irak qui fera le premier les frais de cette agression des mécréants et que les premières attaques auraient lieu sur Bassora. Et à côté de Bassora, il y a un certain nombre de lieux saints de l'islam. Ensuite, il y a cette idée très importante dans l'islam de la défaite. On a toujours l'impression, on aime toujours dire en Occident que les Arabes détalent devant les Israéliens et autres, mais il y a cette idée qu'on retrouve chez Abdelkader du refus de chevaucher le tigre, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire du refus de vaincre l'adversaire. Il vaut mieux être humble et se faire vaincre, et on a plus de lumière aux yeux de Dieu de cette manière. Enfin, de toute manière, ils attendent leur grand monarque. Alors, est-ce que ce sera le même? Alors là, c'est là qu'on verra si le temps des nations est bien dépassé ou s'il faudra qu'on se cartonne avec eux. C'est le mardi. C'est pas le ciel mon mardi, c'est le vrai mardi des musulmans. J'ai profité parce qu'Alain n'était pas là.
Sanders, il est contagieux.
Hein. Oh, mais j'ai toujours été comme ça. Mais ça, sur ces jeux de mots, il y a beaucoup à dire. C'est une tradition hindoue qui s'appelle le Nirukta et qui est le jeu sur les mots et le sens. Et dans les années 80, puisqu'on fait de la contrefaçon de tout, on s'amuse avec les jeux et ça a été repris par la publicité qui a été à ce niveau-là le grappin officiel, le label et la bête. Et qui a foncé totalement dans les esprits. Donc le mardi doit aider les musulmans à vaincre les mécréants et à dégager la Mecque et surtout Médine.
Bien, alors des questions d'auditeurs. Le symbolisme nous demande un auditeur, ne sent-il pas un peu le soufre face à l'Église catholique romaine? Je crois pas du tout. Il suffit de regarder une cathédrale.
Il suffit de regarder une cathédrale.
C'est étonnant d'entendre parler de ça. Hein. La messe, qu'est-ce que la messe? Le fait de prendre l'hostie est un symbolisme.
Mais bien sûr, c'est un symbolisme. Malheureusement, n'oublions pas plus nous avançons justement, et plus un certain nombre de prêtres n'apprennent plus rien dans les séminaires.
Alors, c'est un peu normal, question d'une précision extrême, où trouver Atlantis?
Oui, eh bien alors Atlantis en fait est édité par Dervy Livres, n'est pas distribué en kiosque. On trouve Atlantis dans un certain nombre de librairies, même théoriquement à la FNAC ou autre. Maintenant, ce numéro qui vient de sortir ne sera mis en vente officielle à l'office que après-demain vendredi. Bon, je conseille aux auditeurs d'attendre 2-3 jours, à moins qu'ils ne s'adressent directement au siège d'Atlantis, 30 rue de la Marseillaise à Vincennes, téléphone 43 28 31 95, où là, nous sommes en mesure de procurer non seulement ce numéro d'Atlantis, mais même toute une documentation, puisque nous avons encore, sur 364 numéros, environ 80 fascicules encore disponibles.
Puis je rappelle que dans Milieu de la France, le numéro qui est sorti hier, il y a une interview de
Jean-Fort, qui est donc un de nos principaux collaborateurs.
Beaucoup d'autres questions, mais Jacques Darès, il faudra que vous reveniez, parce que ce sont des questions qui nous emmènent trop loin. On nous demande, par exemple, de parler de l'Antéchrist vu par Renan, Néron, 666.
Évidemment.
On nous demande de parler des écrits du docteur Jean Marchal sur les questions de l'Apocalypse de Jean. On demande de parler des prophéties de Pie XII, parler de la phrase de Saint Alexandre Nevsky, l'ennemi ce n'est pas le Tartare, c'est l'Occident, c'est l'Ouest plus exactement. Enfin, on nous pose plein de questions, mais il faudra que vous reveniez pour parler de tout ça, parce que là, on n'a vraiment plus le temps. Merci Jacques Darès. Je recommande la lecture de la revue Atlantis, qui est toujours excellente, mais qui, en ce moment, étant donné les circonstances, est particulièrement intéressante.
Merci à vous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 20 février 1991. Diffusé le 4 octobre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
C'est tout ce que vous avez à nous dire, rien de particulier?
Non, rien de spécial.
C'est l'essentiel, alors. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a une dame qui téléphone, quel esprit avez-vous? N'êtes-vous pas un peu mégalo? Bien sûr, complètement même. Même complètement mégalo. Il y a un monsieur qui dit, qui désire savoir si au moins quelqu'un parmi vous pratique le carême, vous qui parlez de l'esprit. Mais vous-même, monsieur, qui êtes-vous pour poser ce genre de questions? Moi, je voudrais savoir qui s'occupe de mon âme. Alors, vous me dites qui vous êtes, vous signez votre question, puis je vous répondrai personnellement. La confession publique n'est pas encore imposée dans la religion, dans l'Église catholique et romaine. Que je sache. C'est pas imposé. C'est pas obligatoire, Philippe. Bon. Voilà. Bravo pour l'offensive gnostique, nous dit un auditeur. À quand des cours sur Abellio, Guénon et des aberrations réincarnationnistes? Je sais pas, on pourrait le faire, effectivement. C'est toujours intéressant de savoir ce que dit l'ennemi. Ce que dit l'adversaire.
Pour le lire dans l'erreur spirituelle.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une confusion
totale
qui se fait dans les esprits. Ouais. C'est pas parce qu'on parle des choses qu'on y adhère. Hein. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, je vais donner la parole à Pierre Descaves, et il va pas adhérer. Et tout le monde n'adhérera pas à ce qu'il dira. Nous sommes des hommes de liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette émission est une émission de liberté. Si vous n'aimez pas la liberté, il y a 52 radios libres sur la bande FM à Paris. Donc en ce moment, vous perdez votre temps. Il y a 51 autres radios que vous pouvez écouter. Si vous êtes des ennemis de la liberté, vous écoutez Radio Beurre, Radio J, Radio CGT, Radio, je sais pas quoi, Radiographie du Fémur. Mais vous n'écoutez pas Radio Courtoisie, parce que Radio Courtoisie, le mercredi soir en tout cas, c'est un espace de liberté totale. Tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, comme il a envie de le dire, à condition que ce soit avec courtoisie. Voilà, c'est clair. Et c'est pas parce que on a parlé d'Abellio, d'ailleurs on n'en a pas parlé, qu'on est pour Abellio. C'est intéressant de dire Abellio. C'est intéressant, il faut s'ouvrir la tête. La tête, c'est pas entouré de fil de fer barbelé. C'est pas un objet fermé. C'est pas un cachot, une tête. Une tête, c'est comme un entonnoir, il faut faire rentrer les choses dedans. Puis à l'intérieur de la tête, on a un truc qui s'appelle un cerveau, et ça sert à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises choses, avec le secours du Saint-Esprit, si on pratique le carême. Évidemment, si on pratique pas le carême, il faut pas attendre grand secours du Saint-Esprit, ça c'est certain. Mais je rappelle quand même à nos auditeurs, qui nous ont téléphoné, enfin à ceux qui, dont je cite les interventions, qu'il y a un principe fondamental là-dedans qui s'appelle la charité, vous voyez. La charité, c'est quand même par là que tout passe. Alors qu'on m'engueule charitablement, je veux bien, mais qu'on tienne ce genre de propos qui sont des propos de vieilles chaisières qui pullent rancis, ça ne me plaît pas. Vous voyez ? La nouvelle version des partisans est nettement meilleure que la précédente. Et ben, la deuxième question, la réponse est immédiate. Alors maintenant, on va donc passer à la partie littéraire de l'émission. C'est qu'il y a une partie actualité, une partie littéraire, mais elle se recouvre souvent. Et j'ai invité Mme Geneviève Chauvel, qui est l'auteur d'un formidable livre sur Saladin, dont on va parler, parce qu'on parle beaucoup de Saladin en ce moment, étant donné qu'il paraît que Saddam Hussein, parmi ses innombrables défauts, qui ne sont pas minces, a celui d'être un peu toqué et de se prendre pour Saladin. On va essayer, comme ils sont nés dans le même village, on va voir ça. Mais avant, on va parler avec Pierre Pélissier de son livre, qui lui est drôle comme tout, et qui est une jolie volée de bois vert, qui s'appelle « Tous nuls ». Portrait craché de la classe politique. Alors le mot craché, oui. Là, on peut dire qu'il est vraiment...
il s'impose. Oui, il s'impose, vous le prenez comme ça. Mais
Pierre Pélissier, vous êtes journaliste.
Oui, oui.
Et ça ne vous empêche pas de jeter un regard, je dirais un regard assez vachard.
Ben, il faut pas se laisser prendre.
Sur le marigot.
Vous savez, moi j'ai vécu avec ces gens-là à peu plus de 30 ans, j'ai vu beaucoup de choses, ils sont arrivés à me décevoir terriblement. Et un jour, j'ai eu envie de leur dire ce que je pensais d'eux. Moralité, sur ceux que je connaissais, je suis brouillé avec une moitié, beaucoup plus intime, avec l'autre moitié qui a compris la démarche. J'ai même un député qui sortait du milieu professionnel, qui avait travaillé avant de député, qui s'interrogeait. Et oui, ça dit, c'est des gens qui ont pratiqué des professions. Et qui m'a dit, tu sais, je m'interroge sur le sens de ce métier, j'aurais aimé écrire ce livre. Voilà, nous en sommes
là. La phrase est magnifique quand même, qui a travaillé avant d'être député. Pierre Descaves, toi qui as été député avant de travailler, qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je suis un député par accident, je suis un syndicaliste patronal qui a été essayé de faire avancer les choses un peu plus vite en allant moi-même mouiller les mains dans la pâte, parce que je m'apercevais que, comme le dit monsieur, tous ces députés de profession, quand on était dans leur bureau, on avait raison, on avait des idées intéressantes, dès qu'on était sorti, ils jetaient les mémoires au panier, et on n'en entendait plus parler. Alors pourquoi on en parle? Ben j'y suis allé.
Alors Pierre Pélissier, c'est un peu ce que vous expliquez dans ce livre.
Oui,
que, en fait, la classe politique, elle est moins malfaisante que totalement médiocre.
Elle est à la fois quand même assez médiocre par un manque de réalisme, par un manque de culture, moins malfaisante parce qu'elle a de moins en moins de pouvoir. Je pense en fait qu'elle est très malfaisante au petit niveau, ceux auxquels on ne touchait pas. Il était très mal vu d'attaquer les maires ou les conseillers municipaux, par exemple. Je crois que ce sont finalement les plus malfaisants.
Oui, alors c'est la plus grande surprise qu'on a en ouvrant votre livre, c'est qu'on s'attend, quand on voit Tous nuls, on se dit, bon, ben, on va lire un pamphlet qui va prendre Giscard, Mitterrand, Chirac, Le Pen au collet, qui va leur secouer les puces.
Ça a déjà été fait, c'était pas la peine.
Et puis, quand on ouvre le livre, on s'aperçoit que le premier chapitre, ça commence à la base. C'est-à-dire, c'est les conseillers municipaux et les maires. Et alors, finalement, on se demande ce que vous avez à leur reprocher à ces gens-là, parce que pour la plupart, ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui font...
Ne croyez pas ça complètement, s'il vous plaît, ne soyons pas tous innocents. Non, c'était ça autrefois. Il y a une loi qui est une loi de décentralisation signée Gaston Defferre, qui a tout compliqué, qui a donné aux maires qui ne sont pas des bénévoles et qui en général cumulent pas mal de mandats des pouvoirs absolument épouvantables en matière de construction, qui nous aident joyeusement à détruire tout le patrimoine français et l'environnement. Ces maires sont en plus souvent conseillers généraux ou conseillers régionaux. Ils retrouvent les mêmes pouvoirs, d'autres salaires. Ils finissent par être députés ou sénateurs. On cumule tout ça. On n'est pas pauvre dans le milieu politique. Mais, si vous voulez, les gens de là-bas, c'est-à-dire les maires, notamment des petites communes, n'étaient pas préparés aux pouvoirs qui leur ont été donnés. Et c'est là que nous arrivons à la véritable catastrophe. Quand vous avez un brave homme qui devient maire, avec la loi de faire, il détient par exemple les permis de construire. Dans les petites communes, vous allez trouver des maires dont le premier adjoint est architecte, le deuxième adjoint est maçon, en général son cousin d'ailleurs.
En général, il est franc aussi d'ailleurs.
Oui, et comment voulez-vous refuser des permis de construire à votre cousin qui habite là, à votre autre cousin qui est maçon, à votre premier adjoint qui est architecte? C'est fini. Et on est rentré dans un gâchis fabuleux. C'est celui du massacre. Et puis il y a les impôts locaux, qui sont vraiment maintenant l'objet de scandale numéro un. Ces gens-là n'ont pas un sens de la mesure. Vous votez des impôts colossaux et vous arrivez à des aventures comme Angoulême.
Alors ça, oui, Angoulême, c'est d'ailleurs une histoire superbe. Je voudrais en dire un mot, si vous permettez.
Ah,
parce
bien
que,
sûr.
Bon, je ne veux pas raconter l'histoire d'Angoulême, mais en gros, il y a un gars qui s'appelle Jean-Michel Boucheron, qui a été...
qui a été
maire d'Angoulême pendant quoi? Maire socialiste d'Angoulême, par contre.
Et en plus, secrétaire d'État aux collectivités locales. C'est-à-dire qu'il était son propre contrôleur.
Alors, le résultat, c'est une dette municipale qui se monte à... Vous avez le chiffre en fait?
Je n'ai pas le chiffre en tête, parce qu'il ne cesse de grossir.
Il ne cesse
de grossir. Et on a
un milliard actuel.
Oui, oui, bien sûr.
150
milliards de centimes pour une ville qui compte combien d'habitants?
Je dois essayer de vous retrouver ça serait assez long, mais avec effectivement l'endettement par tête d'habitants fabuleux, le pourcentage d'impôts locaux le plus fort de France, et aucun moyen de s'en sortir.
Et là,
si les prêteurs exigent le remboursement.
C'est au point d'ailleurs que le successeur de Boucheron envisage de faire un procès aux prêteurs, oui, en disant c'est pas possible que vous ayez prêté cet argent sans savoir ce qui allait se passer.
Voilà, exactement. Ce sont les organismes d'État qui ont fait
des... Et alors, comme ce sont des organismes d'État, c'est intéressant. Je crois qu'on n'a pas fini de rigoler. Mais ce qui est intéressant également dans cette histoire, c'est que M. Boucheron, pour autant que je sache, il est toujours paisiblement installé chez lui. Personne ne vient rien lui demander.
Écoutez, mon excellent
camarade Oltra est en prison parce qu'il est soupçonné.
Il est encore assis à l'Assemblée nationale. Il est toujours député. Il a une immunité parlementaire, ne l'oublions pas.
Oltra a eu tort de ne pas se faire élire député. Il aurait pu, à l'époque, il ne l'a pas fait. Il a eu tort, il serait tranquille. Surtout député socialiste, alors que lui, cet imbécile, il est de droite et il le dit. Alors, naturellement, le résultat est en tôle, ça, c'est pas compliqué. Bien, alors, il n'y a pas que le niveau, de l'administration municipale qui excite votre verre.
Je monte les échelons. Je continue avec les départements, je passe aux régions, j'arrive à l'Assemblée, je termine au gouvernement.
Avant d'aller au gouvernement, je voudrais qu'on revienne à l'échelon départemental et régional,
oui,
parce que c'est quand même une création récente. Relativement récente, la régionalisation.
Oui, la régionalisation est récente.
Donc on pouvait s'attendre que, fort d'une expérience de deux siècles pratiquement, la République prenne toutes les précautions souhaitables pour que, en créant de nouveaux élus, elle ne crée pas de nouveaux corrompus. Or, c'est pas comme ça que ça a marché, apparemment.
En créant une nouvelle structure administrative, vous copiez les autres. Alors, vous aviez donc effectivement les départements, les communes, les départements. On ajoute les régions. Qu'est-ce qui se passe? On crée de nouveaux impôts, on crée de nouveaux fonctionnaires, on crée de nouveaux bâtiments, on crée de nouvelles lourdeurs, et on ne sait plus à qui s'adresser. Parce que si vous pouvez me dire, en matière d'éducation nationale, ce qui dépend de la commune, du département ou de la région, faites-moi signe, moi je n'y arrive pas.
Mais personne n'en sait rien, d'ailleurs.
Mais personne n'en sait plus rien.
Alors, à ce propos, il y a une chose assez drôle qui s'est produite au moment des manifestations lycéennes. Le président de la République a dit de débloquer, je crois, 4 milliards de francs, qui ont été débloqués immédiatement par M. Jospin. On ne sait pas où il les a pris, mais enfin, visiblement, il les a pris quelque part, puisqu'il les a débloqués. Et puis là, on vient d'apprendre que le budget, que le financement de la guerre du Golfe se ferait, pour l'essentiel, avant nouvel impôt, par des prélèvements sur le budget de l'éducation nationale.
Oui, c'est intéressant, mais alors cela dit, là, tout est compliqué, parce qu'on a voulu aider les lycées. Je vous signale que les lycées ne sont plus les lycées sont devenus des collèges, ce qu'on appelle lycée, c'est des écoles d'enseignement professionnel. Alors là aussi, si vous comprenez quelque chose, dites-le moi, je ne peux plus.
Mais après votre, après la longue étude que vous avez faite pendant 35 ans du Marigot, quand vous nous dites, je n'y comprends rien, c'est un peu angoissant, vous pensez, enfin, vous avez quand même un diagnostic, est-ce que vous pensez que c'est de la crapulerie,
de la sottise, de la médiocrité, de l'incompétence, ou un aimable mélange de tout ça?
Un aimable mélange de tout ça, je pense pas que la crapulerie soit le sentiment, l'attitude la plus répandue. Je pense que c'est vraiment de la sottise, de l'aberration. Vous savez, soyons simples, commune, département, région, faut supprimer au moins une de ces structures-là. Alors, enfin, on supprimera le département ou la région, je n'en sais pas, mais il faut absolument supprimer une de ces structures.
Quand un élu local favorise un parent ou un petit ami, dans un marché local, c'est pas forcément par naïveté, il y a d'autres raisons.
Non, vous savez, il y a des tas de choses, ça porte des noms variés, ça peut s'appeler simplement du cousinage, du copinage, ça peut s'appeler des pots de vin, parce que vous savez, quand vous voulez construire quelque chose, si vous n'êtes pas dans les normes du permis de construire, si vous arrangez les choses, vous voyez ce que je veux dire, bon, ça passe sous la table, ça sort de l'autre côté, et le permis de construire change de forme.
Par exemple, si vous êtes le neveu du président de la République, vous faites établir un permis de construire de 500 mètres carrés à Saint-Tropez, oui. Et quand les travaux sont terminés, vous avez construit 2000 mètres carrés.
Voilà, il se serait contenté de 1800 mètres carrés, ça serait peut-être passé. Il est monté à plus de 2000 mètres carrés.
C'est vrai, il est un peu exagéré peut-être là.
Alors, je crois qu'il
s'est dit qu'étant...
Je crois qu'il a cherché le conflit avec le maire, fallait pas chercher le conflit avec le maire, fallait s'entendre avec lui, tout s'arrange dans ces cas-là.
Il a construit, d'ailleurs, c'est très curieux, un jour, on en parlera dans cette émission, parce qu'on va revenir à la première partie, et c'est pas le moment. Parce qu'il y a un caractère symbolique tout à fait étonnant. Il a construit sa maison sur le modèle d'une villa florentine, qui est une villa maudite.
Ah, c'est intéressant, ça.
Oui, mais il le savait. Je ne sais pas s'il le savait, mais en tout cas, c'est très curieux.
Vu la famille Mitterrand, certainement.
C'est probable, oui. Pierre, tu veux dire quelque chose?
Oui, je voudrais ajouter un complément, parce que, dans le fond, c'est par hasard que je suis là, et je suis très heureux de tomber en même temps que monsieur Pelletier. Sur la manière dont profitent les élus, il y a toute cette publicité qui est faite par les conseils généraux, par les conseils régionaux, et où on voit le visage du président sur des grandes affiches, où il y a des publications permanentes, de manière à leur assurer une réélection, et tout ça, c'est aux frais du contribuable. C'est pas de la crapulerie, mais on en profite quand même largement. Et deuxièmement, on peut s'étonner, mais pourquoi ce qui était au niveau local est monté jusqu'au niveau régional? N'oublions pas que ce sont les mêmes personnages qui prennent les postes les uns derrière les autres. Et quand on est obligé de quitter un poste, on y envoie la femme. Madame Fourcade, pour pas citer de nom.
Oh, Madame Fourcade, oui, Madame Altani, et quelques
exactement.
Autres.
Exactement. Et c'est pourquoi il se crée des dynasties politiciennes qui ont appréhendé le pouvoir, qui en profitent et qui veulent plus lâcher.
Je vais te couper parce que chez nous, on a fait ça longtemps. Moi, je me rappelle certaines époques où j'étais candidat dans le 15e, ma femme était candidate dans le 20e.
Ah, mais c'est pour la même raison.
Hein, non,
c'est pas pour en profiter parce qu'avec 0,50% de voix, tu risquais pas d'avoir même le remboursement.
Pour parler de ces deux sujets, je peux vous dire que le contribuable a bon dos, parce que le contribuable, c'est pas seulement les petits journaux locaux, c'est des voyages extraordinaires. Les conseillers généraux font des voyages fabuleux, des tubes vrais du contribuable. Je vous signale que c'est la vignette auto ou n'importe quoi qui sert à payer tout ça.
Oui, mais
la vignette auto qui coûte un certain prix dans un département est strictement le double dans le département d'à côté, mais au nom de l'égalité des citoyens, bien sûr.
Pierre Pelletier, quand même, il faudrait pas être trop agressif ou trop pessimiste. Moi, je crois que quand, par exemple, les élus du Nord-Pas-de-Calais organisent un voyage d'études sur l'architecture guadeloupéenne, ça peut certainement apporter quelque chose aux populations du Pas-de-Calais.
Vous croyez vraiment
que si un jour
quand le
des
département,
paillotes.
Je cherche lequel, est parti étudier la reproduction des crocodiles de sur le barrage d'Assouan, c'est vraiment important, et je vous signale que c'est vrai.
Eh ben, on peut regardez, si Angoulême, par exemple, je ne sais pas comment s'appelle la rivière qui traverse certainement Angoulême, mais il y a certainement une rivière, imaginez qu'on fasse un élevage de crocodiles.
Oui.
Bon,
oui,
et ben, en vendant des sacs...
Ne plaisantez pas, il y en a un dans les Landes pour fabriquer
de suite. Bon, ben, vous fabriquez des... Au lieu de le faire dans les Landes, voilà une idée pour le nouveau maire d'Angoulême. Hein, on n'aura même pas de royalty.
Il y a aussi les coins choisis. Vous savez, on peut faire un voyage très important en Belgique. J'en ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi.
Non, c'est trouvé. Et Naliétard non plus.
Non plus. Mais alors, les États-Unis, le Mexique, le Canada, ça j'ai trouvé. J'ai trouvé quoi encore? Des choses étonnantes. L'Australie, la Thaïlande, tout ça, c'est des pays.
La Thaïlande, surtout.
Oui, qui doit apporter beaucoup de choses.
C'est très, très.
L'étude du massage.
Oui, le massage, c'est le message.
Pour l'éducation.
Pour les hommes politiques, parce qu'ils sont toujours contractés. passé. Je pense que c'est
et pour l'éducation des enfants, on finit avec le chapitre des successions internes. On arrive à des choses fabuleuses. Moi, le chef-d'œuvre, je l'ai trouvé. C'est à Angers. C'est M. Narquin. M. Narquin avait trop de mandats. Il a commencé par en céder quelques-uns. À qui ? À sa fille.
Les vents.
Et sa fille s'est retrouvée à son tour avec trop de mandats. À qui il les a cédés ? À son père qui n'avait plus. Vous voyez, c'est quand même fabuleux, non ?
Il y a quelque chose d'analogue. C'est les dynasties, alors ce coup-là, verticales. Par exemple, le résistentialisme se transmet de père en fils. Ah oui. Et on en est aujourd'hui au petit-fils. Exemple, De Gaulle... Debray, ça va pas être loin. Il y a déjà toute la famille, tous les fils qui y sont, les petits-fils sont plus très loin.
Les animaux domestiques aussi, hein. Le chien, le canari.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que oui, c'est que le résistentialisme s'étend aux animaux domestiques ou aux meubles, par exemple, quand on vend. Bon, ce tableau a appartenu à un grand résistant, donc il est beaucoup plus cher, évidemment, ça on comprend. En revanche, ce tableau a appartenu à un collaborateur, on le confisque, on ne le paye pas. Et ce qui est très amusant, quand même, enfin très amusant, ce qui est très édifiant, c'est que ce que vous racontez à propos de Narquin, ça intervient 2 siècles après une révolution qui a voulu supprimer le caractère héréditaire des fonctions.
Oui,
hein. On nous a dit qu'il n'y a aucune raison que le fils du roi soit roi, parce que le fils du roi
peut être... Sauf Narquin le superbe.
Narquin l'ancien, oui.
Bien sûr.
C'est très bien.
Mais vous savez, regardez, vous voyez de la Révolution, 1789, c'est une grande date pour la Révolution. La famille Caillard d'Allières prend la mairie d'Allières-Beauvoir en 1789. Elle l'a jamais lâchée, puis. Oui. Elle l'a jamais lâchée. 33 fois de suite, ils se sont repassés le mandat de maire. La famille Meignery, vous voyez qui je parlais, un monsieur qui est dans les eaux centristes, lui, il tienne la mairie de Balazé en Ille-et-Vilaine depuis 1791, battu de 2 ans.
Meignery qui est un nom prédestiné, puisque la terre Meigne, au Moyen-Âge, c'est la terre pourrie, c'est la terre qui ne rend rien, c'est la terre gaste. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, sur donc cette renaissance des féodalités, on parlait tout à l'heure avec Jacques Darès, de toutes les parodies, de toutes les contrefaçons, là on a vraiment une contrefaçon d'un pouvoir féodal, d'un pouvoir local. Une espèce de reconstitution qui se fait, qui ressemble à un Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge taré, là, pour le coup. Puis autre chose, évidemment, pourquoi au bout de 2 siècles la machine s'enraye comme ça? Ça, c'est vraiment le vieillissement et la complexité du système qui a été étudié par tous les historiens libéraux et par tous les économistes libéraux depuis 20 ans. La crise de l'État-providence et la crise des sociétés politiques qui sont marquées par une entropie de plus en plus accélérée, quoi, jusqu'à arriver à une désorganisation totale du système politique.
Le système de la société chaotique.
Oui, chaotique maintenant.
Il y a un chapitre très amusant, c'est, entre autres, parce que le livre est amusant, il est plaisant à lire, c'est vrai, mais il y a un chapitre particulièrement amusant qui est une visite au Parlement des députés bien logés. Alors ça, on pourrait peut-être en parler un petit peu, parce que effectivement, apparemment, le gouvernement n'est pas disposé à prendre les décisions qui ont été prises récemment par le gouvernement japonais, qui consiste à réduire de 10% les émoluments de tous les indemnités de tous les membres du gouvernement. Le Rocard n'a pas encore eu cette idée, on lui donne d'ailleurs, vous savez qu'on est très écouté par, non pas par Michel Rocard qui a autre chose à faire, mais par ses services.
Ou le service. Ils ont demandé le livre déjà, on va peut-être réussir, vous et moi, à faire quelque chose de positif.
Alors on pourrait lui donner l'idée vous aviez ça.
Vous savez qu'un député gagne quand même la bagatelle de 31 764 francs par mois, qui est imposé aux 11/20 seulement. Ça va changer, mais on va en profiter pour faire payer aussi les chanteurs lyriques, les scaphandriers, les journalistes et quelques professions, 33 total. Bon, je veux bien, 31 764 francs, ça n'attire pas au Parlement des gens de très haute qualité intellectuelle, industrielle ou autre qui vont quitter l'entreprise pour ça, avec le risque d'être une dissolution au bout d'un an. Cela dit, regardez un peu les choses, vous avez en plus 18 591 francs mensuels pour une aide d'Attilo, c'est une enveloppe qu'on remet au député, il en fait ce qu'il en veut.
Oui, alors, pas de détails.
Plus 28 798 francs pour un assistant parlementaire qui est en général son fils, sa fille, son neveu, sa nièce ou sa femme. Voilà. Alors pour le logement, il y a quand même des choses étonnantes. Vous savez, ces gens-là viennent à Paris pour travailler, ils ont un hémicycle, ils ont des bureaux.
Je peux vous faire... Oui. C'est pas un, c'est deux. on a droit à deux attachés parlementaires. Je m'excuse, là, je parle comme ancien député. Deux attachés parlementaires et deux secrétaires.
Alors, moi, je n'avais qu'un. Alors, vous doublez les effectifs.
Vous pouvez doubler les effectifs, car ils se les sont doublés. Avant que j'arrive à l'Assemblée, à Justice Royale.
Et ils ont augmenté, en plus,
de 5 000 francs.
De 5 000 francs, l'enveloppe.
Après que je sois parti.
Après mon départ. Parce qu'avec Martinez, nous, on était pour l'imposition totale, pour les frais réels.
Des fous.
Un tas de choses.
Des fous furieux. Alors, il y a le logement qui est une chose extraordinaire. Certains n'ont pas de chance. Ils ont un petit bureau avec un canapé. C'est pas très très pratique. Ça, c'est dans la partie immeuble Assemblée nationale propre. Il y a d'autres qui sont logés à l'université, de l'autre côté de la rue. C'est un peu mieux. C'est déjà un grand wagon-lit avec le canapé. Bien sûr, la douche est sur le palier. Mais enfin, ça devient confortable. Il y a un troisième immeuble, boulevard Saint-Germain. Mais il y a le sommet. On vient maintenant de racheter le Sofitel Bourbon. Le Sofitel Bourbon, hôtel de grand luxe.
L'Assemblée nationale logée chez Bourbon.
Bah oui, c'est quand même tout à fait symbolique, là encore. Je vous disais que c'était bourré de micros. Quand on a fait un minimum de travaux, on a trouvé des micros partout. Bizarre, mais c'était comme ça. Cet hôtel a été acheté 450 millions de francs pour le confort de nos députés. 450 millions de francs, 112 chambres 4 étoiles, soit 45 milliards de centimes, si on calcule bien. Pour loger des gens qui sont là, quand tout va bien, en principe, 6 mois par an. Et vous savez combien ils payent leur chambre, eux, la participation financière, 150 francs la nuit.
Ah, c'est bien.
Voilà. Donc, c'est des choses absolument
folles. C'est le prix de l'hôtel.
Alors, il y a aussi une chose, parmi les scandales de l'hôtel. Ouais. Si vous passez à l'université, jetez un coup d'œil dans la cour du Palais Bourbon et vous verrez une boule parfaite en pierre. Il paraît que ça coûte très cher de faire une boule en pierre, et celle-ci est énorme. C'est une sorte de gros boulet de canon pour un canon géant, si je veux dire.
Ouais.
Et ça a coûté quelques centaines de millions, c'est beau, c'est tout. C'est tout.
C'est voilà. Bien.
On peut le revendre pour payer l'impôt-guerre, peut-être. Enfin, c'est
une... Mais qui va acheter
je sais pas, quelqu'un qui a un gros tube.
Mais
c'est un scandale innommable, tout ça.
Sur ce point des locaux, je voudrais donner une précision. Peut-être parce que j'étais un élu du Front National, j'avais un bureau sans divan, sans lit.
Non, c'est pas bon, ça.
Et ça m'a beaucoup gêné, parce que peut-être parfois j'aurais pu avoir envie de faire la
sieste.
Non, mais pour faire la sieste, parce que dans mon pays, on faisait la sieste, et ici, je pouvais pas.
Non, c'est vrai, c'est genre, bon, cela dit, je pense pas que l'hôtel Sofitel Bourbon soit plein tous les soirs, faudra trouver quelque chose pour le rentabiliser. On va peut-être le revendre d'ailleurs une société privée un jour.
Alors, un auditeur dit, les députés coûtent, alors, il dit, ont 9 000 francs par jour. Je crois que c'est coûte, en réalité, 9 000 francs par jour, soit 270 000 francs par mois. Il faut rétablir les choses, dit-il. Et il précise qu'il a envoyé des documents à Minute La France qui prouvent cet aspect de... Alors, ça, c'est tout à fait...
Le coût est une autre chose. Moi, j'ai les chiffres...
Non, je dis, c'est moi qui traduis, il écrit ont,
je pense.
Le député, oui, peut-être, oui.
Enfin, moi, j'avais les derniers chiffres avant l'augmentation du mois d'octobre-novembre. On était là.
Il y a une question, Pierre Pélissier, qui m'angoisse, que je voudrais vous poser, c'est pénible, mais je suis obligé de vous poser cette question. Est-ce que vous ne craignez pas, par votre livre, et le lapsus est révélateur, car c'est un livre libre, est-ce que vous ne craignez pas de faire, par une certaine forme d'antiparlementarisme, le jeu de l'extrême droite?
Bon, la question m'ayant été posée 150 fois ou 200 fois,
je
vous répondrai petit A que je ne suis pas sûr de faire le jeu de l'antiparlementarisme. Je demande aux gens de refaire leur métier convenablement, ce qui n'est pas une forme d'antiparlementarisme.
Oui.
Je leur dis de sortir de leur ornière, c'est tout.
Ouais. Ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où on demande aux députés de se comporter d'une façon intelligente et honnête, on est considéré comme un antiparlementariste.
Exactement. Que je sois un homme de droite, je ne l'ai jamais caché, je n'en demanderai jamais, je me suis jamais habillé en gauche pour essayer d'être dans le goût du temps ou dans le sens de l'histoire. Ça, je n'ai jamais pu.
C'est peut-être... Enfin, bon, écoutez, je retiens l'aveu. Alors, vous êtes prié de noter.
Pierre Pélissier,
votre nom sera transmis.
Je crois qu'il est déjà transmis, je pense. Il y a déjà des choses qui sont faites.
Alors, il y a un autre chapitre tout à fait intéressant. C'est celui où vous racontez les élus face à l'univers médiatique.
Oui.
Parce qu'il y a une espèce de folie de la médiatisation qui est en train de s'installer, ou qui s'est déjà installée d'ailleurs il y a longtemps.
Je crois d'ailleurs qu'il faudrait que je complète ce chapitre avec la folie médiatique qui s'empare des médias, ça serait assez drôle aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une folie médiatique chez les élus, on fait n'importe quoi pour se faire voir. J'ai cité le cas du mur de Berlin, où tout le monde se précipitait vers le mur de Berlin en espérant rencontrer des photographes, se faire photographier devant le mur, mais surtout ne rien dire, si on ne comprenait pas ce qu'il passe. Donc il ne fallait pas faire de déclaration qui pouvait ensuite se retourner contre vous. On se précipitait en Roumanie la première occasion, toujours pour se faire photographier. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont construit leur carrière uniquement sur la télévision. Je pense à quelques jeunes gens qui s'appellent Carignon, qui s'appellent Noir, qui s'appellent Léotard, qui n'ont aucune existence politique, qui sont des vides intellectuels complets. Ces gens-là n'existent que par la télévision, parce qu'ils sont toujours sous l'angle d'une caméra quand ils en voient une.
C'est une campagne de relations publiques personnelles que vous êtes en train de faire, là.
Je sais pas, je vais peut-être me faire engager. C'est la qui comme ça de la promotion
si
des
vous, si vous aviez envie de devenir l'attaché parlementaire de Carignon ou de Léotard,
à mon avis, je crois qu'on y tient pas très longtemps. Je sais pas pourquoi, ça défile beaucoup.
Alors, je vois un sous-titre de chapitre, enfin deux sous-titres de chapitre, ambition ou prétention.
Oui.
Est-ce que les hommes politiques sont ambitieux ou prétentieux, ou est-ce qu'ils ont des ambitions ou des prétentions ?
Écoutez, je pense qu'un homme qui fait une carrière quelle qu'elle soit, sans ambition, a intérêt à rester cordonnier dans son village. Je pense que l'ambition est un ressort normal et que le manque d'ambition est une chose assez effroyable. Mais entre l'ambition et la prétention, il y a une marge. C'est pas parce que vous faites élire maire d'un petit village, ou même d'une grande ville sur les bords du Rhône, que l'on peut se croire capable d'être président de la République. Alors on passe de l'ambition à la prétention. Un mandat électoral ne vous donne pas accès au titre de présidentiable, c'est pas vrai.
Puisque vous faites allusion à une grande ville des bords du Rhône, et que vous connaissez bien, vous avez, je l'ai dit, longuement exploré le Marigot, comment pensez-vous que réagit intimement quelqu'un comme Michel Noir quand, après avoir été porté au pinacle par les médias pendant des années, après avoir été présenté comme l'homme du consensus, après avoir été présenté comme le petit gars de la Croix-Rousse qui emporte sa ville et qui emporte l'adhésion de toute sa ville, pratiquement même les communistes sont censés être noiristes à Lyon, se présente à des élections où il fait... il obtient 20% des inscrits, c'est-à-dire qu'il y a un Lyonnais sur cinq dans sa ville qui est la sienne, et qui dit « je me déplace pour voter pour lui ». Alors, est-ce que vous croyez que ce genre de fessé est de nature à redresser ou à corriger les hommes politiques, ou est-ce qu'ils sont définitivement perdus ?
Je crois que nous sommes coupables, quand je dis « nous », c'est « nous » les journalistes. Je crois que nous sommes tombés dans des pièges, que nous avons pris au sérieux des gens qui ne le méritaient pas, et surtout la partie audiovisuelle de ce métier a transformé en vedette des gens qui n'en avaient pas la capacité intellectuelle ni politique. Je crois que nous sommes coupables, beaucoup plus qu'eux, en fait, tous nuls dans le cas présent, c'est nous. C'est nous, on a fabriqué des guignols. On a fabriqué des gens qui ne méritaient pas le nombre de politiques, et finalement les électeurs qui sont des gens quand même sérieux, sur Lyon, 10 000 de moins se sont dérangés pour voter pour M. Noir. Et je pense que si nous étions très attentifs, j'avais été traîné à Lyon, je savais que ça se passerait comme ça, le mythe Noir à Lyon, il est déjà sérieusement émoussé depuis quelques mois.
Mais alors, au fond, ce que vous dites, c'est que l'univers politico-médiatique est en train de s'effondrer sous son propre poids de nullité.
Oui, parce que vous croyez qu'on peut être très fier de nous en ce moment
Enfin, moi, j'ai pas trop honte, mais j'ai jamais trop honte, faut dire.
Mais moi non plus, d'ailleurs. Quand même.
Le fait est que il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour voter. Oui. Puis, il faut bien dire une chose, les statistiques le montrent. Il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour acheter les journaux.
Oui.
Et
encore que les journaux soient peut-être moins coupables que certaines chaînes de télévision.
Oui, mais là, il ne s'agit même pas d'informations, clairement.
Oui. Oui, on est tombé dans un piège médiatique, si je peux en dire un mot, qui est le piège CNN. C'est devenu de la folie complète. Ouais. Je ne vais pas faire de publicité pour une radio d'État qui fait de l'information en continu.
Mais si, on peut en parler ici.
Il y a au moins le sérieux. France Info annonce, par exemple, 10h tour, une explosion. On ne sait pas ce que c'est. 10h15, ils vous disent un autobus a percuté une bonbonne de gaz. Et 10h30, ils vous disent il y a 3 blessés. La version CNN, c'est explosion énorme à Tours, sans doute un avion est tombé sur la ville, 10h15. C'était pas un avion, c'était un autocar. 10h30, c'est il y a 200 morts, et 10h45, on s'est trompé, il y a 3 blessés.
Ouais. Et
on démarre.
Et à 11h, c'était pas à Tours, c'était à Angoulême. Oui.
Voilà, et on démarre sur CNN, parce que CNN est allumé dans toutes les rédactions, et ça devient une catastrophe nationale.
Je crois qu'on peut prendre quand même l'exemple assez récent, puisqu'il remonte à hier soir,
où Gérard Carrérou arrive sur TF1 pour dire, c'est-à-dire plus important que Dumas et plus officiel que Mitterrand, pour avoir interrompu son émission pour dire, voilà, Gérard Carrérou va nous dire quelque chose, et il vient annoncer au monde, et en même temps à l'ennemi supposé, que cette nuit, sans doute, mais en tout cas avant 72 heures, il sort de voir un haut personnage à l'Élysée, et que lui, Gérard Carrérou, vient nous dire sur TF1, cornaqué par Mme Michel Cotta, quand même, que cette nuit, mais en tout cas avant 72 heures, et je viens vous le dire. Et on arrête, et c'est reproduit ce matin dans les journaux, sans le recul qui
le déclenchement de la guerre terrestre. Voilà.
Oui, mais si ça avait été vrai, il aurait eu quelques morts sur la conscience risque... en préparant l'adversaire.
Non, mais ça risque d'être vrai.
Oui, non, mais...
On est dans les 72 heures.
On est dans les 72 heures, et les combats terrestres ont quand même commencé.
C'est un criminel.
Alors, c'est pas par hasard l'homme qui lui a dit ça qui est le plus criminel. Ouais. Vous ne croyez pas?
Aussi, peut-être.
Là aussi, on tombe dans des pièges.
Lui, un journaliste, je crois que c'est François Brignot, d'ailleurs, qui disait aux gens qu'il voyait, ou à ses amis, il leur dit souvent, je suis journaliste. Alors, ne me dites pas, je vous le dis, mais ne le répétez pas.
Non.
Voilà.
En plus, le genre de confidence fait par le personnage auquel vous faites allusion, ça veut dire je vous le dis pour que vous le répétiez sans dire que c'est moi qui vous l'ai dit.
Absolument.
Alors, Pierre Pellissier, c'est un diagnostic extrêmement sévère que vous dressez, oui. Mais ce qui manque à votre livre, c'est le remède, parce qu'il n'y a pas de...
Vous savez, moi, je suis un observateur, je ne suis pas un homme politique.
Mais quand même, au fond de vous, vous avez bien une idée de la méthode pour s'en sortir. Au fond, oui, ce que vous démontrez dans le bouquin, c'est que on est maintenant dans l'état de collapse général du système démocratique. Hein, ça, c'est.
Je crois que les recettes sont aux différents niveaux. Je pense que la première recette, c'est que les Français doivent réagir. C'est une sorte de consumérisme politique. En fait, il ne faut plus accepter des impôts locaux complètement fous comme certaines communes les pratiquent. Il faut les contester par tous les moyens. Il faut renoncer à cette loi électorale des conseils municipaux où, avec 49% des voix, on se retrouve avec 3 sièges, avec 51, on se retrouve avec 48 sièges. Mmh. Ça ne colle pas du tout. Vous n'avez plus d'opposition. Vous n'avez plus un seul contre-pouvoir. C'est l'absence des contre-pouvoirs qui est là.
Le seul contre-pouvoir n'ayant lui-même aucun contrôle, c'est le contre-pouvoir de la presse.
Voilà. Et qui, en plus, est en train un petit peu de se discréditer. Alors, il y a peut-être une solution sur les élections, c'est que le bulletin blanc soit pris en compte comme bulletin exprimé. Mmh. Ça ferait des choses étonnantes. Ça n'empêcherait pas des hommes politiques de se retrouver à l'Assemblée nationale élus, mais élus avec 18% des voix, ça fait quand même mal. Vous voyez un président de la République arriver à l'Élysée élu par 19% des Français.
Ça mais il faut quand même rappeler qu'on est en République et que la République française a été instaurée avec moins de 20% de votants. Et oui. Qu'elle dure depuis 200 ans.
Oui. Mais le régime n'est pas... Moi, je défends quand même le régime. Je dis que le régime n'est pas mal foutu. Je dis pas que la Constitution est mauvaise. Je trouve même qu'elle fonctionne relativement bien, qu'elle a passé des étapes comme la cohabitation sans trop de dégâts. Je dis qu'on s'en sert mal, que c'est aux hommes politiques de se réformer, aux Français de se diligent, et puis de rétablir le contre-pouvoir par tous.
Au fond, il y a peut-être une solution... Qui est l'attitude consumériste. Et je me demande si, par certains côtés, Le Pen et le Front ne représentent pas une espèce de... Comment s'appelait ce super consumériste américain qui a foutu en l'air pendant un moment le système de la consommation, qui a obligé les producteurs... Ralph Nader.
À l'origine, remontons les choses. Moi, quand j'ai connu Jean-Marie Le Pen, je l'ai connu en 1956, en janvier 1956. C'était quand même un mouvement, non pas de consommateurs, mais de contribuables qui avaient failli balayer la quatrième.
Dont un auditeur nous rappelle, à propos de logements somptueux et somptuaires dont vous parliez tout à l'heure, que Poujade avait acheté un hôtel qui était l'hôtel du Globe pour loger les députés. Et cet auditeur ajoute, pour les contrôler.
Je voudrais des solutions, ne soyons surtout pas
pratique et lucide.
On peut s'en sortir.
Je voudrais.
C'est vrai qu'il y a un compliqué système, excusez-moi, parce que Antoine Pinet a été interviewé récemment et il a bien dit qu'en 1937, quand il était député,
Ils avaient juste une indemnité pour s'alimenter, et ça n'allait pas au-delà, et plus ça va, plus ça devient un train de vie de satrape.
Je retrouve des idées de Pinet dans ce que j'ai un peu développé.
Je voudrais confirmer ce qu'a dit M. Pellissier sur l'anomalie que représente ce système électoral dans les communes. J'avais une liste Front National, une liste RPR et une liste divers, dont beaucoup de gens de gauche. Eh bien, le RPR et notre liste, nous nous entendions très bien, nous étions prêts à faire une alliance, mais la troisième liste a eu la majorité de 3 voix. Ce qui fait qu'ils ont 3/4 des sièges, et nos 2 listes, qui sont au-dessus, qui ont plus de voix, ont le reste de sièges, quoi, se partagent les 25%.
C'est une loi qui est à revoir complètement.
C'est totalement aberrant, c'est un système aberrant, à tel point. Et puis alors, le fait que les hommes politiques triturent le scrutin électoral à chaque fois qu'il y a une nouvelle majorité, moi j'estime que ça devrait être dans la Constitution, une fois pour toutes, par référendum, et qu'on n'y touche plus, que la règle du jeu soit établie.
Bien sûr.
Et qu'on joue avec la règle du jeu établie d'une manière définitive.
Alors voilà, on a parlé d'un livre qui s'appelle « Tous nuls, portrait craché de la classe politique » de Pierre Pélissier, qui est un livre à lire parce que c'est roboratif, c'est un peu, ça dégage, ça décoiffe, et ça apprend beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est sur les principes, et puis également sur le cas, il y a certaines anecdotes qui sont quand même pas piquées des hannetons, il y a des personnages qui sont
pour de vrai,
pour le moins pittoresques. Merci Pierre Pélissier. Vous êtes toujours... vous êtes toujours employé dans cet excellent quotidien.
Je suis toujours journaliste
au Figaro. C'est ça. Eh bien, écoutez, ça prouve au moins que, en plus d'un certain talent de plume, qui n'est pas négligeable, vous avez un sacré courage, parce que travailler au Figaro, écrire un bouquin comme ça, vous êtes toujours. Alors, ça prouve que finalement, ils sont vraiment libéraux au Figaro. Merci, Pierre.
Merci.
Maintenant, on va changer à la fois d'époque, d'hiver, et puis on va même prendre un peu d'air, si j'ose dire, parce que on va sortir du Marigot pour aller dans le désert. Merci Geneviève Chauvel d'être venue ce soir pour parler de votre fort beau livre, qui est consacré à un superbe personnage, Saladin. Alors, Saladin, on sait qui c'est, mais en réalité, on ne sait pas tellement qui c'est.
Non, il est très mal connu en Occident.
Il est très très mal connu.
Alors, il y a tellement peu de choses écrites sur lui.
Je voudrais lire deux choses qui sont les phrases que vous mettez en exergue de votre livre. Il y a d'abord une très très jolie phrase, mais qui appartient à votre jardin secret, donc je vous demanderai pas de l'expliquer. Mais c'est l'envoi à Laurent qui m'a fait l'honneur de me choisir pour maire. Je trouve ça très joli.
Oui, c'est mon fils.
Oui, c'est assez logique.
Oui, et parce que je pense que je crois que l'esprit choisit le milieu dans lequel il vient sur Terre. Il choisit sa famille. Donc mon fils m'a choisi et je l'en remercie.
Il a une bonne idée en tout cas. Et puis alors il y a les deux exergues, c'est « Quand le cheval se fait rare, il pose leur selle sur des souris », proverbe bédouin.
Je crois que ça pourrait s'adapter aussi au livre de Monsieur Pélissier.
Oui, probablement.
Ça accompagne très bien.
Et il vous l'avait promis, il s'est hâté de vous en rendre maître, il a détourné de vous le fer de vos ennemis, afin de donner aux infidèles un signe de sa protection et de vous affermir dans la vraie foi. La vraie foi, c'est un verset
c'est
du Coran.
C'est la sourate de la victoire.
Voilà. Alors je disais qu'on connaît Saladin sans le connaître, et vous-même, vous ne cachez pas cette vérité, cette situation, puisque la première phrase de la préface que vous écrivez en ouverture du livre, c'est « Lorsqu'enfant j'ai appris l'histoire des croisades, le nom de Saladin était pour moi synonyme de terrorisme, de tyrannie et de fanatisme ». Bon, alors vous avez découvert par la suite que c'était pas exactement ça, mais c'est vrai qu'on a été élevé dans une imagerie au sein de laquelle Saladin apparaissait comme une espèce d'effroyable...
Ah oui, c'est l'homme contre lequel l'Occident, tous les croisés ont mobilisé. C'est l'homme qui taillait les croisés en morceaux et donc en pièces. Je veux dire, et c'était l'homme qui avait repris le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et donc, c'est lui contre qui il fallait se battre, en plus. Donc, c'est pour cela que dans tous nos livres d'histoire, si vous voulez, il y a toute une vérité qui a été complètement occultée. On raconte que les croisés étaient des gens très très bien, qui sont partis en Terre Sainte pour délivrer le tombeau du Christ, tous derrière Godefroy de Bouillon. Alors, ils sont tous partis comme ça en masse, des colonnes immenses, à travers les terres. Mais ce qu'on nous raconte avec moins de détails, c'est que tout le long du chemin, ils ont massacré beaucoup de gens, et en particulier les Juifs, puisque c'était eux qui étaient responsables d'avoir tué le Jésus-Christ. Et puis, après ça, quand ils sont arrivés en Syrie, tout ce Proche-Orient, tout cet Orient, si vous voulez, qui est lointain, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les richesses de tous les Arabes, leurs forteresses, leurs châteaux forts, leurs esclaves, leurs coffres-forts pleins de pierreries, et leurs robes de soie, et tout ça, et ils se sont, comme ils avaient tout abandonné en Occident, ils se sont dit, ben voilà, on va refaire fortune ici. Alors ils ont commencé à s'implanter, à prendre les terres, à se battre contre les musulmans pour prendre leurs terres et leurs châteaux. Et il a fallu quand même le subterfuge de Godefroy de Bouillon pour tout d'un coup, pour les rappeler à l'ordre et les réexciter, si vous voulez, sur le tombeau de Jésus-Christ, Jérusalem, en sortant de terre la lance qui avait percé le cœur du Christ et le bois de la vraie croix et des tas de choses comme ça. Et donc en 1099, quand même, ils ont pris Jérusalem et ils ont massacré 100 000 musulmans. Et ils ont installé donc le royaume franc de Syrie avec le royaume de Jérusalem.
Le 14 juillet, je crois d'ailleurs. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont pris la ville le 14 juillet.
Ils n'ont peut-être pas fait, je crois. Hein.
Non, non. Ouais, non.
Et puis, alors donc, beaucoup plus tard, si vous voulez, après.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais.
Alors, ce Saladin, si vous voulez.
Il y a un livre qui montre ça, enfin, qui l'exprime d'une façon passionnante, c'est le livre de Amin Malouf, qui s'appelle Des croisades vues par les Arabes. Oui.
Alors, ça, c'était déjà.
Qui modifie bien le regard.
Oui. Alors, ça, c'est une chose que j'avais lue. Puis, il y a une chose aussi, c'est que, bon, j'ai été journaliste pendant des années. Avec un de vos confrères que vous connaissiez, Jean-François Chauvel. Donc, il était mon mari. Et je l'ai suivi partout, et en particulier comme il était très spécialisé dans les pays du Proche-Orient et l'Afrique, donc particulièrement Proche-Orient. Depuis 1967, la guerre des six jours, j'étais avec lui. Et comme il écrivait, donc moi je le complétais en faisant des photos. Et pour faire des photos, il faut être en première ligne tout le temps, pour bien prendre l'image. Alors j'ai comme ça parcouru tout le Proche-Orient pendant des années, depuis 67, et tous ces pays, toujours, il y avait cette référence à Saladin. En plus, bon, au Caire, vous avez une citadelle construite par Saladin. Vous avez en Jordanie, vous avez des châteaux forts, des croisés, bien sûr. Et il y a aussi des châteaux forts construits pour Saladin. À Damas, vous avez le mausolée où il a été enterré. En Irak, vous avez la ville où il est né. Une forteresse, il y a encore des restes de cette forteresse au bord du Tigre, à Takrit, à 50 km de Bagdad. Et donc partout, si vous voulez, il y a toujours cette référence, et je me disais, mais qui est ce Saladin dont les Arabes parlent avec tant d'admiration, tant de respect, tant de espèce de rêve, vous voyez, dans les yeux. Et alors, dernièrement, il y a 3 ans exactement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Saladin ? Parce que ce nom m'est revenu, comme ça, je faisais un voyage en Jordanie, pour ne pas nommer le pays. Et puis Saladin, les châteaux croisés. Puis je sentais ces mouvements, enfin cet islam qui me bougeait, l'intégrisme, tout ça. Je me disais, on va avoir des problèmes avec l'islam, on le connaît mal. Au fond, qu'est-ce que cette histoire arabe, la culture arabe, nous la connaissons vraiment très mal en Occident, à part quelques orientalistes. Et quand j'ai cherché ce qu'on avait pu écrire sur Saladin, j'ai trouvé vraiment très peu de choses écrites.
C'est surprenant, dans la bibliographie que vous publiez, il y a vraiment très peu de choses.
Il y a 4 biographies de Saladin. 4. Une au XVIIIe siècle en français, une au XIXe en anglais, et 2 autres au XXe siècle, une en français et une autre en anglais, faite par, enfin c'est pas une biographie vraiment, c'est une étude sur Saladin, c'est une compilation faite par des universitaires. Qui est d'ailleurs très bien, c'est une masse d'informations fantastiques, mais pas du tout un livre à lire pour le grand public, absolument indigeste. Alors, ayant trouvé cela, c'était pauvre, je suis partie dans les auteurs, les chroniqueurs arabes. Et donc, bien sûr, j'ai lu le livre de Amin Malouf, et j'ai retrouvé tous les auteurs de base. Vous savez, c'était les journalistes de l'époque, aussi bien les arabes que les occidentaux, Guillaume de Tyr, Arnoux, Ambroise, et puis de l'autre côté, tous les chroniqueurs arabes. Et les biographes contemporains de Saladin. Et j'ai retrouvé aussi, une partie de la correspondance de Saladin, des textes inédits, que vraiment les Occidentaux connaissent pas du tout. Et puis.
Vous parlez arabe ou vous lisez l'arabe?
Non, je ne parle pas l'arabe,
mais je
me suis fait assister. D'abord, je dois dire qu'à la Bibliothèque nationale, nous avons un fonds des croisades qui est absolument remarquable. Avec des textes, vraiment, tous les textes sont dans la langue authentique, la version originale, et des traductions, de très bonnes traductions faites par des orientalistes vraiment chevronnés. Et puis, je suis retournée en Jordanie, je suis allée aussi en Irak, en Syrie, et je suis allée dans différentes universités voir des historiens arabes de nos jours, et spécialistes du Moyen-Âge et des croisades. Et il en existe quelques-uns. Alors j'ai pu confronter
avec ces gens et comprendre, si vous voulez, la mentalité de ce Saladin, ce qu'il représente pour les Arabes d'aujourd'hui, le rêve de Saladin, le symbole de Saladin, le syndrome de Saladin. Il y a beaucoup de choses dont on pourra parler.
Ça, on peut le découvrir, on peut le sentir à travers l'interview que vous publiez en ouverture de votre...
Voilà, si j'ai demandé au roi Hussein de Jordanie de me donner cette interview, c'est parce que justement je voulais montrer que le Saladin n'est pas un héros mythique, vous voyez, c'est pas une espèce de Aladdin et la lampe merveilleuse, c'est pas un héros imaginaire de l'histoire des mille et une nuits. C'est un homme qui a existé, qui a été une sorte de Charlemagne, c'est l'homme qui a réalisé, le seul dans l'histoire arabe qui a réalisé l'unité arabe, cette unité qui est une espèce de rêve, une sorte de rêve impossible. Et depuis la mort de Saladin, ne s'est jamais plus réalisé. Et tous les chefs d'État arabes, depuis Saladin, ont rêvé d'être Saladin. Il est le modèle des chefs d'État arabes, le modèle de gouverneur juste, et le modèle parce qu'il est symbole de tolérance, de religion, de générosité. C'est le symbole de l'unité, symbole de gloire, puisqu'il a repris Jérusalem, la mosquée sainte, et qu'il a chassé les croisés de Palestine. C'est en même temps, un symbole de résistance à l'agresseur étranger, et résistance à l'envahisseur étranger. Et donc, j'ai voulu avoir cette interview du roi Hussein pour qu'il m'explique tout cela, il l'expliquait très clairement. Et alors, en plus, si vous voulez, il m'a donné cette interview en pleine crise du Golfe, c'était au mois d'octobre. Et quand je l'ai vu à ce moment-là, donc on a parlé de cette unité arabe que Saladin avait réalisée en criant « djihad, guerre sainte ». Et je lui ai posé cette question, croyez-vous qu'aujourd'hui, on puisse faire l'unité arabe sur un autre motif, avec une autre idée, un autre but, enfin, puis un autre slogan, si je puis dire. Il m'a dit oui, bien sûr, il y a d'autres moyens, mais finalement, lorsque les Arabes se sentent menacés, ils se ressoudent entre eux en criant djihad.
Pas seulement les Arabes,
tous les musulmans.
Là, c'est pas tellement le cas des Occidentaux, c'est bien le drame d'ailleurs.
Non, par contre, non, au niveau religieux,
c'est un peu pour cela que Saddam Hussein, tout de suite, quand il a vu, enfin, qu'il a compris qu'il avait vraiment commis une grosse gaffe en envahissant le Koweït et en violant le droit international, quand il a vu l'Occident mobilisé aussi fortement, il a crié guerre sainte. Il a voulu être le grand champion de, l'homme qui allait régler tous les problèmes du Proche-Orient.
Vous pensez que c'est un truc, c'est pas autre chose. Vous pensez pas qu'il y a au fond de Saddam Hussein une espèce d'idée comme ça, de fantasme, selon lequel il serait une espèce de nouveau Saladin, voire même une réincarnation. Il est né dans la même ville que
mais Saladin. Mais
Saladin était kurde, alors que lui ne l'est pas.
Bien, Saladin, non, lui n'est pas, Saddam Hussein n'est pas kurde. Saladin était kurde par son père et irakien par sa mère, qui était d'une des grandes familles irakiennes de l'époque. Et alors, Saddam Hussein, aujourd'hui, il veut ressembler à Saladin, évidemment, il a voulu aussi ressembler à Nabucodonosor, à Hammurabi. Vous savez, il y a deux ans, j'étais en Irak, et alors on l'appelait le Hammurabi II, Nabucodonosor III et Saladin II. Déjà, on commençait en 88, après la guerre Iran-Irak, on commençait à l'appeler un peu Saladin, ça fait beaucoup. Oui. D'ailleurs, à Takrit, dans cette ville où il est né, et où il y a la forteresse où est né Saladin, eh bien, il y a des immenses portraits de Saddam Hussein, plus grands que partout ailleurs. C'est la ville de Saddam Hussein.
Il y a notamment des portraits en Saladin, de Saddam Hussein en
Saladin. En Saladin, bien sûr. Il s'est fait photographier aussi en Hammurabi. Mais alors, là, il y a une chose que je dois ajouter tout de même. Il faut être tout de même objectif. Et moi, j'ai quand même fait tous ces voyages et tout ça, toute cette enquête, si vous voulez, comme une journaliste que j'ai été pendant des années. Et j'ai voulu donc apporter le sérieux et l'objectivité. Alors il y a une chose, tout le monde s'étonne, parle de cette mégalomanie de Saddam Hussein, puisqu'il y a, qui est soutenu, si vous voulez, par cette présence de portraits gigantesques dans tout le pays.
Mais ça, c'est très, très, très arabe, c'est très oriental. Vous allez au Caire, c'est la même chose, il y a les gigantesques portraits de Moubarak. Vous allez en Syrie, mais alors c'est plus qu'en Irak, les portraits de Hafez el-Assad. Et ce ne sont pas les chefs d'État qui commandent des portraits d'eux et qui demandent à ce que ce soit placé à telle carte, à tel coin de rue et tout cela. Quand j'étais là-bas en 88, c'était juste après la fin de la guerre Iran-Irak, et il y avait tout le temps des manifestations, des cérémonies dans tous les villages, dans toutes les villes d'Irak, en l'honneur de Saddam Hussein, et il allait là-bas, on l'adulait, il arrivait à cheval, en voiture militaire, en Mercedes, en tout ce qu'on voulait, il s'habillait de différentes façons, et vous voyez la foule qui se précipitait, et on lui offrait les portraits. C'était des gens, pour lui faire plaisir, qui le dessinaient ou le peignaient en Saladin, en Abu Rabi, en Nabucodonosor, en militaire, en abaya, avec un koufier, enfin dans toutes les tenues possibles et imaginables, ou avec une toque d'Astrakhan très, très soviétique. Alors, et on lui composait des poèmes, des chansons, on dansait pour lui. Moi, j'étais sidérée de voir ça. On ne voit pas ça. Vous vous rendez compte, les Français allant tout d'un coup envoyer tout là pour Giscard, pour Mitterrand, pour tous nos chefs, pour nos députés dans les diverses villes et tout, lui faisant son portrait, lui offrant, tel point que Saddam Hussein a ouvert une espèce de, c'est pas un musée, mais enfin une salle gigantesque où il y a une exposition permanente de tous les portraits qui sont faits de lui. Et c'est spontané, volontaire.
C'est la différence entre la mentalité moderne et la mentalité archaïque. La mentalité moderne qui se replie sur elle et la mentalité archaïque qui attend quelque chose d'un...
Non, puis il y a surtout une chose chez l'arabe, c'est, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, les arabes vous disent, on n'est pas tellement pour la démocratie, d'accord, mais vous savez, on aime bien le pouvoir personnel. On veut avoir un chef. Il y a encore cette notion-là de la tribu, c'est médiéval. On veut le chef. Parce que les deux piliers de la politique arabe, c'est le bâton et l'argent. Alors voilà, le chef, il dose, et c'est ce qu'a fait Saladin, il l'avait très très bien compris, et il dosait d'une façon très très habile le bâton. Quand il y avait tout d'un coup un complot pour le renverser, au Caire par exemple, des complots fatimides pour le renverser, eh bien il a arrêté les gens avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de ruses, il a su trouver le noyau, les responsables, il les arrête, et qu'est-ce qu'il fait? Si ce sont des militaires, ah, ils ont tous été égorgés, enfin il y a une révolte militaire, répression militaire de la police, et si c'était des civils, hop, crucifiés en place publique, et on n'en parlait plus.
Il choisit d'ailleurs, c'est avec un certain discernement, même avec un discernement certain, il choisit les victimes expiatoires ou propitiatoires. Par exemple, quand il tue Renaud de Châtillon, quand il fait exécuter Renaud de Châtillon, c'est le seul qui va faire exécuter, parce qu'il le tient pour un perfide.
Il l'a exécuté lui-même, il lui a coupé la gorge lui-même. Mais, après la bataille de la fameuse bataille de Hattin, où il avait pu vaincre là tout le...
Mais là, il libère tout le monde en réalité. Enfin, il épargne les survivants et il ne tue que Renaud de Châtillon.
Ah, parce que là, il avait fait serment de le tuer, parce que n'oubliez pas quand même que Renaud de Châtillon, d'abord, est celui qui a rompu plusieurs trêves. Et Saladin, voilà, il y a une chose qu'il faut bien bien fixer, c'est que Saladin était un homme d'honneur, un homme qui n'a jamais violé sa parole, qui a toujours respecté les traités qui avaient été signés avec les chrétiens, les croisés. Et alors, Renaud de Châtillon, lui, a violé plusieurs fois la trêve, il attaquait les caravanes simplement pour prendre le butin, et surtout, il avait monté à un moment une expédition très très osée pour l'époque, il était allé en Arabie, avec quelques mercenaires, là, une poignée de durs et de casseurs. Et puis, ils étaient partis, ils allaient carrément vers Médine pour déterrer le prophète Mahomet. Et il avait dans son esprit de ramener la dépouille de Mahomet jusque dans son château de Kérak et son repère incroyable. Et il voulait obliger les Arabes à venir vénérer la dépouille du prophète dans son château en payant un droit. Vous voyez,
l'idée a été reprise après. Oui.
Bon, alors ça c'était l'outrage,
ça
de sacrilège.
Renaud de Châtillon.
Renaud de Châtillon. Bon, alors toute sa bande d'ailleurs, tous ses casseurs, ils ont été arrêtés à ce moment-là parce que bon, Saladin fait envoyer une colonne là, d'Égyptiens avec un amiral qui a passé la mer Rouge et qui les a rattrapés dans les déserts. Et ils les ont ramenés au Caire, ils en ont tué quelques-uns sur place, puis ils ont ramené tous les autres au Caire, on les a fait défiler à cheval la tête vers la queue des mules, et puis après on les a décapités en place publique. Et le seul qui a pu échapper, c'était Renaud. Et c'est pour cela que Saladin avait juré de le décapiter de ses mains. Il avait juré sa mort. Et il l'a fait à Hattin, quand Renaud lui est tombé sous la main. Alors là, c'est le seul. Puis après, il dit au roi Guy Lusignan, qui tremblait comme une feuille, il lui dit, ne vous inquiétez pas, un roi ne tue pas un roi. Alors,
on retrouve dans votre livre, on a l'impression que c'est une illustration. D'abord, il faut dire, c'est très important, que c'est un véritable roman d'aventure. Il faut dire la première chose importante...
La vie de Saladin, c'est une épopée extraordinaire.
Mais ce qui est très important pour le lecteur qui va venir vers vous, c'est qu'il sache que c'est un livre, c'est pas un livre d'historien lourdingue, ennuyeux et tout. C'est un livre qui est écrit à la première personne.
Oui, parce que voilà, ça c'est la chose aussi. Tous les livres que j'avais lus, ces biographies, c'était écrit à la troisième personne. Et en plus, l'auteur était chrétien et enfin, n'était pas musulman. Et n'était pas arabe, et donc, automatiquement, quand il racontait les batailles de Saladin contre les croisés, ben, il était du côté des croisés, il n'arrivait pas à sortir du camp croisé. Alors, moi j'étais frustrée en lisant ces livres, parce que c'est quand même une biographie de Saladin, on a envie de savoir ce qu'il pense, pourquoi il attaque de telle façon, quelle est sa ruse, qu'est-ce qu'il pense des chrétiens, qu'est-ce qu'il pense de cette religion, attends, trinitaire, ce Dieu en trois personnes, et puis le contact physique qu'il peut avoir, les discussions qu'il a avec les croisés, parce qu'il avait des contacts quand même avec les seigneurs croisés. Et puis, pourquoi il a eu cette envie, tout d'un coup, cette espèce de rage de construire son image de champion de l'islam, champion de la guerre sainte, pour repousser tous les croisés et reprendre Jérusalem.
Alors,
force.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais là, ce que vous écrivez éclaire très bien ce que vous nous disiez tout à fait au début de notre conversation. À propos de l'étrange dédicace de ce livre, à Laurent qui m'a fait l'honneur de me choisir pour maire, parce que dans le livre, vous expliquez, et vous rendez tout à fait crédible cette explication, que Saladin est devenu ce qu'il est devenu à cause du nom que lui avait donné du surnom que lui avait donné son père, qu'il avait appelé Rassembleur des Croyants.
Rassembleur de la foi.
Rassembleur de la foi. Oui. Et en quelque sorte, dès le début du livre, il dit j'ai été obligé de faire ce boulot parce que j'avais ce nom-là.
Oui, parce qu'au départ, il était né, c'était un petit enfant chétif et il était non violent, il préférait la religion, il était très attiré par les soufis, il a été élevé par des soufis, donc il avait une éducation soufi, très attiré.
On va encore nous dire qu'on fait du gnostisme, du gnosticisme, du
réincarnationnisme. Il faisait de la méditation jusqu'à l'âge de 26 ans, tout ça. Il aurait voulu vivre dans un couvent. Et alors, il était très, très attiré par cela, la méditation et surtout, si vous voulez, la lutte sur soi-même. C'est ça qui l'intéressait, la lutte sur l'ego. Et c'est ce que Mahomet dit d'ailleurs à un moment à ses disciples. Il dit nous revenons de la petite djihad, parce que djihad ne veut pas dire guerre sainte, mais effort sur soi-même. Et alors il disait nous revenons de la petite djihad, c'était la guerre contre les polythéistes, à la plus grande djihad, c'était la guerre contre soi-même. Et ça, c'était la chose qu'avait fait Saladin toute son adolescence. C'était cela, la méditation et lutter sur soi contre l'ego et de se détacher des biens de ce monde et vous voyez, et chaque fois être le serviteur de Dieu si vous voulez respecter, se soumettre complètement à la volonté de Dieu, car nous ne sommes rien en dehors de la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a mis sur terre et qui fait de nous ce qu'il veut. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu.
C'est le même idéal que l'on retrouve dans la chevalerie chrétienne de l'époque.
Il y a une résonance.
L'illustration de la chevalerie arabe, parce que nous pensons à notre chevalerie croisée, mais il y a la chevalerie arabe et c'est cela.
Alors je disais tout à l'heure que votre livre
apparaît
comme...
Est-ce que je peux rajouter, si j'ai écrit à la première personne, c'est parce que justement faisant, mais je me suis mise tellement dans, j'ai voulu tellement dire, raconter Saladin, sa vérité, ses émotions, sa conception de la vie, sa philosophie, sa politique, sa stratégie militaire, qu'au moment où quand j'ai voulu écrire, le jeu est venu, je me suis complètement imprégné, je suis devenu un homme, je suis devenu Saladin pendant 3 ans.
C'est d'ailleurs extraordinaire de penser qu'une femme du XXe siècle décide un jour de devenir un chef de
ça, ça a été un défi extraordinaire pour moi si vous voulez, ce plan de l'écriture en tant qu'écrivain, d'entrer complètement dans la peau du personnage.
Et c'est vraisemblable, c'est ça qui est très étonnant, c'est que on y croit absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui est de travers. Et à chaque fois, on est obligé de se dire, mais c'est une femme qui a écrit ça, c'est quand même curieux parce que on a l'impression, peut-être que c'est une imagerie
qu'on s'est fabriqué à soi-même, mais on retrouve tout ce qu'on pense d'un chef arabe, d'un puissant chef arabe, des réactions éventuelles d'un puissant chef arabe, lettré, imprégné de sa foi, et puis imprégné du sens de la chevalerie. Ça, c'est vraiment les dimensions principales.
Il y a la ruse arabe, la ruse orientale.
Alors, il y a toute la ruse orientale. Oui. Et ça, c'est peut-être, alors, je veux pas faire du sexisme, mais c'est peut-être la dimension la plus féminine du personnage. Ce côté,
Non, cette sensation que les arabes sont très, très, alors, vous savez, ce qui m'a donné la possibilité d'écrire ce livre de cette façon, c'est que je connais vraiment bien le monde arabe. D'abord, j'avais passé quand même plus des années en Algérie, je suis pied noir. Et puis, après cela, bon, je fais tous ces reportages pendant 15 ans.
Ils sont partout, Pierre, ils sont partout.
4 sur 7, là, là.
Et puis après, j'ai fait tous ces reportages pendant près de 20 ans, quand même, dans tous ces pays du Proche-Orient. J'ai rencontré aussi des chefs d'État contemporains, non seulement le roi Hussein, mais aussi le président Sadat, le colonel Kadhafi, Sheikh Zayed Abu Dhabi, l'émir du Koweït, le père de l'actuel, le roi Faisal d'Arabie Saoudite, le frère du roi Fahd. Alors, vous comprenez, tout ça, c'est beaucoup d'hommes politiques libanais, des hommes politiques syriens. Alors, en Irak aussi, des hommes politiques irakiens. Alors, je n'ai pas rencontré Saddam Hussein, malheureusement, et ça m'aurait amusé de le rencontrer, de lui poser la question à ce moment-là, est-ce que vous pensez être Saladin ? Mais si vous voulez, donc tous ces gens, je les ai vus, j'ai des interviews, j'ai quand même été dans leur entourage, et je les ai suivis pour des grands reportages, des films. Et donc j'ai pu voir, les observer vraiment, j'ai pu voir comment ils vivaient. Donc si vous voulez décrire comment vit un sultan au Moyen-Âge, c'est pas tellement bien différent. Autrefois ils vivaient sous la tente, ils avaient des palais dans les villes, mais sous la tente tout le temps. Mais aujourd'hui la mentalité est la même. Alors, vous voyez, les décors ont un peu changé, les situations ont changé, mais les mentalités sont les mêmes et des deux côtés. C'est la chose, si vous voulez, qui m'a le plus frappé.
Vous savez, je disais que votre livre m'avait fait penser au livre d'Amin Malouf. Il m'a fait penser en réalité à deux livres d'Amin Malouf. Le premier, c'est Les croisades vues par les Arabes, parce que on est dans le cœur de ce livre. Je dirais que votre livre, c'est un peu une espèce de miniature, au sens de la miniature persane, ce qui ne va pas puisqu'il s'agit de l'Irak, mais d'un personnage irakien, mais une illustration d'un des aspects du livre de Malouf. Et dans l'écriture, il fait tout à fait penser au livre dont le titre m'échappe pour l'instant, mais qui est la biographie, l'autobiographie d'Omar Khayyam.
Ah, c'est Samarcande.
C'est
un très très beau livre.
Un livre magnifique dans lequel Omar Khayyam, dont on découvre, alors que c'est pas du tout l'auteur de petites poésies maigrelettes et mièvres, mais que c'est un personnage absolument fabuleux.
C'était pas un arabe surtout aussi.
Oui, en plus c'était pas un arabe, mais c'est un personnage complètement fascinant. Et le livre est écrit à la première personne, le livre d'Amin Malouf, Samarcande. C'est Omar Khayyam qui se raconte lui-même, de même que chez vous c'est Saladin qui se raconte lui-même. Ça donne une force d'attraction au livre tout à fait extraordinaire, parce que au bout de 10 pages on y croit absolument, d'autant que c'est une aventure superbe qui commence d'une façon extrêmement aventureuse, puisqu'il naît, racontez-vous, la nuit même où son père est obligé d'abandonner la forteresse.
Oui, on attendait sa naissance pour quitter la forteresse.
Alors, ils sont partis historiques, ça.
Ah, c'est vrai, bien sûr. C'est dans tous ces biographes contemporains. Et justement, c'était les augures. Tout ça, c'était très dramatisé. Parce que
son oncle a tué un officier de...
Oui, un officier de justice. Et le vizir de Bagdad, qui était un vizir très cruel à l'époque, s'est mis en colère et a chassé, le père de Saladin, qui habitait donc dans cette forteresse, qui était le gouverneur de cette forteresse. Et alors, ils avaient reçu dans la journée l'ordre de s'en aller, de décamper. Et tout avait été rassemblé et tout. Et tout d'un coup, la mère entre en douleur. Alors, il a fallu attendre que la naissance soit produite pour que tout le monde puisse partir. Et il fallait partir avant l'aube. Et on avait peur que les douleurs durent longtemps. On se demandait combien de temps ça allait prendre, cette naissance. Et heureusement, il est arrivé suffisamment à temps pour que tout le monde puisse partir. Et comme ça, ils sont partis dans la nuit, sous le ciel d'Orient étoilé, vous voyez, à travers les dunes de sable, vers Mossoul. Ouais.
Alors là, on est en plein... vers Mossoul.
On savait plus, et voilà, mais sous Mossoul, et on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et vous voyez, Saladin, Ça a été un personnage vraiment. Plus je l'étudiais, plus j'écrivais sa vie. Et c'était un peu comme si c'était lui qui parlait à travers moi, enfin qui écrivait, qui prenait ma main pour écrire. Car au début, c'était pas cela. J'avais l'impression d'écrire sa vie. Et puis après, c'est lui qui m'a complètement, qui est entré en moi, qui a pris ma plume. Et je l'ai écrit comme ça aux premières personnes parce qu'en même temps, c'était une façon de. Tu sais, de bien donner le côté spiritualité de cet homme, toute sa spiritualité. À la troisième personne, biographie classique, j'aurais jamais pu le donner. Et c'est l'aspect le plus fantastique de cet homme. Vous connaissez beaucoup de chefs d'État, vous, qui sont des hommes politiques hors pair, stratèges militaires, qui conduisent des armées comme ça de 200 000 hommes en plein désert, et qui en plus ont une spiritualité. Car ce que dit encore Saladin quelques jours avant de mourir, il dit à son fils, il lui livre une sorte de testament spirituel. Il lui dit, mon fils, bon, soumets-toi à la volonté de Dieu, car c'est en lui qu'est ton salut. Il lui dit, ne laisse pas couler le sang impunément, car le sang versé ne dort jamais. Prends garde, veille au bonheur de tes sujets, de ton peuple. Et puis il lui dit, et si je suis devenu grand comme je le suis, c'est parce que j'ai su gagner le cœur des hommes par ma bonté.
Alors là-dessus, il meurt et vous dites qu'il laisse pour tout héritage à son fils 17 dinars et une pièce d'or, ce qui est une belle leçon.
17 drachmes,
et une pièce d'or, ce qui est une belle leçon pour revenir au livre de Pierre Pélissier, aux hommes politiques actuels.
Et c'est un homme qui était complètement détaché de tout, et il disait, pour moi, l'argent ne vaut pas plus que les grains de sable du désert. Vous savez, tac, on le jette tout. Et quand il faisait, c'est pour ça qu'il avait réuni une armée au départ, quand il était un petit bonhomme dont, sur lequel personne ne pouvait miser. Enfin, c'était l'homme trop fait pour gouverner, qui n'avait pas de partisans, qui n'avait pas de grande famille derrière lui, grande ossature. C'était l'étranger, le kurde. Alors, il n'était pas possible qu'il puisse tenir longtemps. C'était quand même une sorte d'usurpateur, si vous voulez. Malgré tout, il a quand même été bon sultan d'Égypte. Ensuite, il a étendu son autorité sur toute la Syrie, la Mésopotamie et le Yémen. Et pourquoi ? Et tout le monde se ralliait à lui, à sa bannière. Pourquoi ? Parce qu'il se battait beaucoup. D'abord contre les émirs musulmans pour les forcer à rentrer dans son camp, pour ensuite, en leur promettant la grande bataille sur les chrétiens, et délivrer la mosquée de Jérusalem. Et puis aussi parce que dans toutes les batailles, il distribuait le butin à tout le monde. Il ne gardait pas, les autres émirs se gardaient les meilleures pièces, tandis que lui, non, il ne voulait rien. Alors il laissait ses gens, ses comptables, vous voyez, prélever un petit 10%, un petit pourcentage pour les caisses de l'État. Et tout le reste était distribué aux officiers et aux soldats. Car c'était ça aussi, le bâton et l'argent. Il punissait quand on faisait des choses contre lui, quand on ne respectait pas la loi. Il voulait la justice totale. Mais aussi, il distribuait, il était très généreux. Alors il donnait à ses officiers des privilèges énormes, des terres et tout cela, et à ses soldats tout l'argent. Et c'est comme ça qu'il tenait ses gens.
Belle carrière, et il n'y avait pas ce gars-là derrière lui.
Non, on n'en avait pas besoin. On peut peut-être rappeler, pour ceux qui voudraient en savoir plus, qu'un grand écrivain chrétien qui est Saint-Exupéry s'est très largement inspiré des paroles et de la philosophie de Saladin pour un de ses grands livres qui est Citadelle. Son prince emprunte beaucoup de choses à Saladin.
Mais il a quand même exercé une fascination sur l'Occident. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais petit, je savais qu'il avait échangé deux chevaux blancs avec Richard Cœur de Lion. Il y avait vraiment...
Alors, vous voyez, ça, c'est la légende. Vous voyez, là, par exemple, une chose, Saladin n'a jamais rencontré Richard Cœur de Lion. Ils se sont battus à Saint-Jean-d'Acre pendant 3 ans. La bataille de Saint-Jean-d'Acre, elle est fantastique parce que c'est la bataille du Koweït, là, qui va commencer maintenant. Et ça va être même la même stratégie. On va couper, là, le Koweït, c'est la citadelle, et puis les armées derrière. Enfin, c'est un peu la même chose. Mais le siège a quand même duré 3 ans. Ils s'étaient enterrés dans le sable aussi, les chrétiens et les arabes. Et puis finalement, bon, ils ont gagné, la ville s'est rendue et il y a eu un traité. Mais Richard, après, qu'est-ce qu'il a dit après la bataille de Saint-Jean-d'Acre? Il a fait dire aux ambassadeurs de Saladin, il a dit, bon, ben maintenant, alors la paix, la négociation, c'est très simple. Vous nous rendez toutes nos terres que vous nous avez prises et vous rentrez chez vous. Et alors, là-dessus, Saladin n'a pas accepté. Il n'a pas voulu se laisser humilier comme ça. La guerre a continué, des petites choses, tout ça sporadique. Mais à la fin, c'est Saladin qui a imposé sa loi.
On va essayer de faire lire votre livre à George Bush.
Je crois.
Merci en tout cas d'être venu nous parler de Saladin. Je crois qu'il faut lire votre livre. Il est passionnant. C'est un véritable
livre. De toute façon, je comprends ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, je crois, pour après la guerre, pour essayer de se réconcilier, il faut, si on veut comprendre la mentalité des Arabes, je crois qu'il faut lire ce livre.
Merci en tout cas. Et je rappelle le titre de votre livre, Saladin, rassembleur de l'islam. C'est paru chez Pygmalion, qui est une très très bonne maison d'édition, qui fait des choses magnifiques, notamment dans le domaine du cinéma. On en parlera un jour. Pygmalion, Gérard Vatelet. On va écouter un tout petit peu de musique, et puis ensuite on va écouter la colère de mon excellent camarade Pierre Descaves.
Pour prendre des bains, d'autres vont à la montagne avec des tas de bons bains. Pour s'offrir des bains de siège, d'autres vont se faire blanchir le derrière dans la neige, histoire de se rafraîchir. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Le cul sur la commode. Laisseuse qui s'enquiquine le soir après le dîner, se paye une mezzanine et s'en vont au ciné. Toute la soirée, ils restent assis à digérer des navets indigestes en salle réfrigérée. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Le cul sur la commode. Pour tenter la fortune, des gens ivres d'orgueil s'en vont risquer leur thune chaque dimanche à Auteuil. Dans des cars, ils s'entassent, écrasés à demi, puis ayant bu la tasse, radine sans un radis. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Le cul sur la commode. Couplet patriotique. Ma commode est française, c'est du moderne ancien. Les tiroirs sont Louis XVI, les pieds républicains. Elle fit les barricades, elle ne tient plus très bien. Mais bien qu'elle soit malade, elle m'est sacrée.
Bon, je sais pas qui a choisi cette chanson, mais c'est vraiment de très mauvais goût. Hein. Alors là, je suis obligé de m'élever. C'est pas vous, non. Bon, naturellement, comme d'habitude, il n'y a pas de responsable. Quand on achetait le disque sur la console, et puis voilà. Sur la console, j'ai bien dit. Hein. Bon, c'était pour vous montrer qu'après tout, les chansons idiotes, c'est pas une spécialité de l'année 90. Elsa et tout, il y avait... Avant, il y avait des choses comme ça. C'est amusant. Ça mange pas, tiens, c'est pour bien méchant. Je présente mes excuses aux éditeurs qui ont pu être blessés.
Aux auditeurs.
Aux auditeurs, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Compris, éditeurs.
Moi aussi.
Non. C'était pas raison.
Non, mais les éditeurs sont très contents, au contraire, puisqu'ils toucheront des droits. Et...
Quoi, sur la chanson ?
Ma cache. Depuis longtemps.
Tout ça pour dire qu'on peut aussi être un petit peu surpris par certaines choses qui passent... dans les micros de Radio Courtoisie, ça arrive, et ça t'est arrivé il n'y a pas très longtemps, Pierre Descaves.
Oui, c'est arrivé jeudi 14 février vers 19h.
Voilà, alors, je dois dire une chose, c'est que dans cette radio, on ne pratique pas la langue de bois.
Hein. Non.
Enfin, moi, en tout cas, je ne la pratique pas, et j'ai pas beaucoup entendu d'émissions où on pratique la langue de bois. Alors, ça, l'autre jour, tu m'as téléphoné en me disant, écoute, il s'est passé une chose inadmissible à l'antenne, et ben je t'ai dit, si t'es pas content, viens donc le dire toi-même. Alors voilà, tu as la parole.
Exact. Oui, je viens le dire, mais d'ailleurs, je respecterai le lieu dans lequel je me trouve, et puis j'observerai la courtoisie qui tient au nom de la radio. Donc je ne ferai pas comme l'autre personnage dont je vais parler. C'était, je crois, dans une émission de Patrick Payot et il avait invité diverses personnes, dont le professeur Monteil.
lequel professeur, c'est d'abord que je connais pas. Alors je dis tout de suite, je suis très très objectif, je sais pas qui c'est. Donc
c'est le secret de l'objectivité.
Ah oui, il s'est vanté d'avoir été mendéciste. Moi ça me dérange pas. Je pense que il a été au service ou collaborateur de celui qui a bradé l'Indochine. C'est son droit, qu'il trouve ça très bien, pourquoi pas. Ensuite, il a dit qu'il avait été un gaulliste de la première heure et qu'il en était très fier. Je dis encore, pourquoi pas. Il a été au service de celui qui a bradé l'Algérie, l'Indochine, l'Algérie. Il semble qu'il ait eu un intérêt particulier pour les bradeurs. Mais alors, ce que je lui reproche, c'est que il s'est permis un outrage à la mémoire de Jacques Soustelle. Et alors ça, je n'ai pas le droit de laisser passer. J'ai un devoir de justice à remplir au nom de toute notre communauté, de la communauté des Pieds-Noirs, des rapatriés et des musulmans que Jacques Soustelle a beaucoup aidé et qui sont devenus d'ailleurs des musulmans français ou des Français musulmans plus exactement. Et ce monsieur s'est permis de dire ceci dans notre radio, qui est quand même une radio nationale. Je crois que là, il aurait pu au moins s'excuser ou dire que ses propos avaient dépassé sa pensée. Un des intervenants lui apprend que Jacques Soustelle était décédé et il s'est permis de dire que le diable est sa vilaine âme. Alors ça m'a révolté. Parce que je ne crois pas qu'il ait été autorisé à qualifier de vilaine âme celle de Jacques Soustelle. Jacques Soustelle a été un grand Français. Sur le plan de la résistance et de l'époque gaulliste...
Pardonne-moi de te couper, mais je suis pas absolument certain que le professeur Monteil ait été désigné pour se tenir avec un glaive flamboyant à l'entrée du paradis et pour faire le tri entre ceux qui vont là-haut et ceux qui descendent en bas.
Absolument. Moi,
c'est possible, mais j'ai pas été informé
personnellement. J'en reste au fait, simplement. Je pense qu'en matière de gaullisme, et puisqu'il a mis en doute son gaullisme d'origine, je crois que l'action de Jacques Soustelle à l'époque de Londres a été extrêmement connue, que personne ne l'ignore aujourd'hui et que je trouve particulièrement déplacé qu'on le traite de pseudo-gaulliste. Deuxièmement, pour ce qui a été alors l'œuvre de Jacques Soustelle en Algérie, là j'en parle en connaissance de cause, c'est un homme qui a été profondément touché par le malheur de la communauté pieds-noirs, par ces bombes qui explosaient dans des lieux publics, par le fait qu'il avait senti que cette population était condamnée à terme à l'exil et à la mort. Et j'ajoute qu'en tant que gaulliste, si De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, c'est pas à M. Monteil qui l'a dû. C'est parce qu'il y a eu un Jacques Soustelle qui a orienté la révolution d'Alger vers les gaullistes. Et donc, par conséquent, je pense qu'à ce double titre, il aurait pu au moins passer sous silence. Et quant à son âme, je garantis sa pureté totale. Et il s'agissait d'un homme de bien, qui a fait énormément de bien, qui a essayé de sauver ce qu'il a pu. Malheureusement, il a dû quitter le pouvoir et il n'a pas pu sauver cette communauté.
Pierre, je te remercie d'avoir donné une réponse courtoise à un propos qu'il était moins. Et pour finir, pour boucler cette émission, je vais redonner la parole à Pierre Pellissier en lisant un tout petit paragraphe de son livre. Tu vas voir qu'on ne sort pas du tout du sujet. Il s'adresse aux hommes politiques en général, comme dans l'ensemble de son livre, et il leur dit « Parmi vous, il n'en est guère que deux à être allés jusqu'au bout de leur engagement. Et il n'est pas toujours du meilleur goût aujourd'hui encore de reconnaître que Georges Bidault et Jacques Soustelle ont poussé le courage jusqu'aux limites de l'absurde. Eux, que cela vous plaise ou non, ont tout sacrifié à leurs idées. Je vous choque, j'en suis ravi. Pour moi, ce qui est navrant, ce n'est pas l'égarement par fidélité à la parole donnée, c'est la mollesse, la tiédeur, l'inconsistance et le confort. » Et Pierre Pellissier ajoute dans « Tous nuls, portrait craché de la classe politique ». Les soldats perdus de l'OAS, comme les clandestins des sections anti-OAS, avaient au moins des tripes au ventre.
leur crise de rage et de désespoir apaisée, ils peuvent se regarder droit dans les yeux et se respecter.
Voilà, merci à Monsieur Pellissier d'avoir
une raison de plus de lire.
Et je trouve que c'est la meilleure réponse que l'on pouvait faire au professeur Montaigne.
Est-ce qu'on a le temps d'écouter Bruno Magret? Bien sûr qu'on a le temps. Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends rien. Si on a le temps. Mais bien sûr, il nous reste 3 minutes.
Les socialistes n'ont décidément aucune pudeur. Pendant la guerre, ils continuent leur magouille. Déjà, il y a quelque temps, ils ont annoncé un redécoupage des cantons. Disons plutôt un charcutage, car comme par hasard, cet ajustement qu'ils présentent comme une nécessité due au résultat du dernier recensement sert en réalité leurs intérêts électoraux. C'est ainsi que dans mon département, dans les Bouches-du-Rhône, ils découpent les cantons socialistes les plus peuplés pour tenter de doubler le nombre des élus PS. Mais ils oublient de regrouper les cantons socialo-communistes sous-peuplés pour ne pas avoir naturellement à réduire corrélativement le nombre de leurs élus. Mais cela ne leur suffit pas. Après les cantonales, voilà maintenant qu'ils veulent modifier le mode de scrutin pour les régionales à 1 an seulement de l'échéance. Et cette nouvelle manipulation est particulièrement choquante, puisqu'elle intervient au moment même où la France est engagée dans une aventure militaire douloureuse. Alors que les initiatives politiques du gouvernement pour régler les graves problèmes des Français sont aujourd'hui toutes gelées dans l'attente d'un dénouement à la guerre du Golfe, eh bien les socialistes n'ont pas pu attendre, par contre, pour triturer le mode de scrutin de 1992, comme si leurs intérêts électoraux passaient avant ceux des Français et les préoccupaient davantage que le sort de nos soldats à la frontière du Koweït. Je pense cependant que ces tentatives socialistes s'apparentent plus aux gesticulations du noyé qui sombre. Elles ne peuvent en réalité qu'accélérer la noyade, car au fond, quelle que soit la cuisine électoraliste, ce sera quand même au bout du compte, sur le moyen terme, le mouvement qui incarne le mieux le peuple français qui l'emportera.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 20 février 1991, diffusé le 4 octobre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.